Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir durant ce cycle de cours sur l'éducation. Même si on a déjà des enfants qui sont grands, c'est pas très grave. Parce qu'on a déjà expliqué plusieurs fois que, en fait, quand on passe sa vie à éduquer ses enfants, et surtout à s'éduquer pour éduquer ses enfants, et peut-être ça servira aux petits-enfants. Donc ce soir, on va réfléchir sur la notion de l'autorité, comment mettre en place l'autorité, et pourquoi elle est nécessaire, comment elle fonctionne. Alors bien sûr, c'est impossible d'imaginer qu'on puisse éduquer un enfant sans discipline, sans fixer des règles. Pourquoi ? Parce que les notions du bien, les notions du mal, les notions du vrai, les notions du faux, sont des choses qui ne sont pas innées. Ce n'est pas quelqu'un comme ça, il se lève un jour dans sa vie et les choses, elles sont en lui. Non, il faut un apprentissage. Et cet apprentissage, il prend du temps. Oui, un apprentissage, c'est comme si on disait, c'est en deux mots, un apprenti, c'est un apprenti, sage. Il n'est pas encore sage, c'est un apprentissage, il est en train de devenir sage. On est en train de rendre l'enfant sage, en train de le rendre chacham, on est en train de le rendre autonome dans sa tête. Et ça prend un certain temps. Maintenant, pour pouvoir accepter cet apprentissage qui va être long, parce que des fois il faut attendre des années, des fois des dizaines d'années, que l'enfant il commence un petit peu à comprendre la valeur de ce qu'on lui a transmis, qu'il a dépassé ses peurs et ses angoisses et ses complexes et sa rivalité, pour que peut-être des fois à 20 ans ou à 22 ou à 25 ou à 30 ans, il va dire merci papa, merci maman. Mais en attendant, comment on va faire nous pour tenir? Surtout qu'il faut accepter que l'apprentissage en lui-même, il comporte malheureusement les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que ce qu'on veut produire chez l'enfant, ce qu'on veut amener chez l'enfant pendant la période d'apprentissage, ça crée des réflexes, ça crée des tensions, qu'on a l'impression qu'elles vont à l'inverse de ce qu'on veut atteindre. Par exemple, que le fait même de vouloir mettre une discipline, ça peut aussi donner que l'enfant il va repousser la discipline. Ça peut aussi donner le fait qu'on peut ne pas être aimé par l'enfant pendant un certain temps, parce qu'on peut ne pas être compris par l'enfant. Après aujourd'hui, de plus en plus, je parle avec beaucoup de parents, il y a des enfants aujourd'hui, des enfants hyperactifs, des enfants qui n'arrivent pas à se maîtriser. Et ce mot, il revient tout le temps. Des enfants qui ne supportent pas la limite et l'autorité. Ils ne supportent pas l'autorité. Quand on leur dit, fais comme ça, reste assis à ta place, baisse la tête, lève la main avant de parler, ils ne supportent pas. Plus ça va, plus c'est comme ça. Et c'est un peu normal. Parce que la Gemara dans Sota, elle dit que la génération du Mashiach, une des caractéristiques, c'est chutzpah yasgé. C'est-à-dire la chutzpah, l'insolence, elle va se multiplier. Donc c'est pas seulement que les goyim ils vont être des pinques et qu'on va rien respecter, que les femmes elles se révoltent et les hommes ils se révoltent et les hommes ils veulent être des femmes et les femmes des hommes. C'est pas seulement ça, ouais. C'est aussi que à l'intérieur de l'enfant, ça existe cette notion-là d'insolence. Et on voit très vite d'une génération à l'autre que les gens n'ont pas du tout le même respect de leurs parents, le même respect des professeurs, le même respect de la loi. C'est une logique qui se développe à l'intérieur de la personne. Maintenant, quand on dit d'une génération à l'autre, le problème c'est combien une génération? Nous, on a l'habitude de penser qu'une génération c'est 25 ans. Mais le Rav Shach, Zichron le Bracha, il disait non, aujourd'hui ça va tellement vite qu'une génération c'est un an. C'est-à-dire qu'en un an, tu vois que les enfants, ils changent, ils sont différents. Ils ont encore une autre approche, une autre vision. Ça va tellement vite que même nous, on a du mal à suivre. Oui, avec les nouveautés, avec les téléphones, avec les Twitter, avec les textos, en réalité, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, à quoi ils pensent, à quoi ils rêvent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent. Nous, on est en train de leur parler des choses, des fois, et eux, ils sont loin, des gens, ils sont loin. On ose à peine leur dire certaines notions sur la sainteté, la nudité, et eux, ils sont déjà bien au courant comment ça marche, de quoi ils parlent à l'école. Tu vois, tu tombes des nues, ouais. Toi, tu as peur de prononcer le mot divorce, mais lui, son frère, il est divorcé, sa soeur, son cousin, il est divorcé, son copain, il est divorcé. C'est que les enfants, malheureusement, ils sont pris entre deux. Que d'un côté, on leur donne une société qui est complètement débile, avec des films débiles, des dessins animés débiles, des livres débiles. Et d'un autre côté, ils ont une réalité qui est dure. Parce qu'on parle de divorce, on parle de viol, on parle de guerre, on parle d'agression, on parle d'antisémitisme. Alors comment ils vont faire? La réalité, elle est très dure. Oui, et on leur propose tout le temps de la virtualité, du rêve, amuse-toi, les jeux vidéo, les films virtuels, les personnages virtuels, les poupées. Donc en fin de compte, ils sont entre le rêve et la réalité. Donc d'un côté, le rêve, il fait comme une espèce de décélérateur de maturité, il empêche ces gens de grandir. Mais d'un autre côté, malheureusement, les difficultés de la vie, elles font grandir les personnes. Les gens, ils voient le chômage, ils voient la souffrance, ils voient la difficulté. Alors ça les fait grandir. J'ai vu quand on donne des cours dans des écoles, que d'un côté, les enfants, ils ont l'air d'être complètement à côté de la plaque, mais à la fin, ils viennent, ils disent, bon, moi je sais que c'est pas bien d'avoir une copine, mais j'ai tellement peur de finir seul que je veux une copine. Oui, c'est pas une copine pour s'amuser, c'est genre une copine parce que j'ai peur d'être célibataire, parce que mon cousin, il a 48 ans, il n'est pas marié, alors ça m'angoisse. Ils ont des peurs, à 16 ans, ils ont des peurs de 30 ans. On dirait que les choses, elles sont décalées. Là, j'étais la semaine dernière, j'ai fait une conférence. Alors, pendant le cours, j'ai vu qu'il y avait des jeunes filles. Alors, j'ai parlé de ça, j'ai dit, le Yetzirara, qu'est-ce qu'il crée? Il crée des situations par anticipation. Donc maintenant, la fille, maintenant, à 15 ans, avant, elle rêvait d'un prince charmant. Maintenant, à 15 ans, on fait des propositions de sexualité. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'époque où elle aurait dû rêver, elle est en train de vivre. C'est qu'il y a trois étapes. Il y a une étape, l'enfant, il ne sait même pas que ça existe, l'amour. Il y a une étape, il y pense, comme ça, c'est joli, le prince charmant. Ouais. Et après, il y a une étape, après la roupa, ben là, ça se passe dans le lit, ça fait partie de la chose. Mais maintenant, le problème, c'est que le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que l'étape, elle vient là, avant. L'étape d'avant, ouais. C'est-à-dire que maintenant, un sociologue, il a dit, on a fait maintenant des feuilletons, des histoires d'amour qui passent à la télé pour les enfants de 8 ans. Donc eux, ils voient des garçons de 12 ans avec des filles de 12 ans qui s'aiment et qui s'adorent et qui ont des intrigues et des souffrances et des déceptions sentimentales à 13 ans, à 12 ans. Au lieu de jouer au football, ils se disent « Oui, elle m'a trompé, elle m'a... » Parce qu'ils ne savent plus à qui vendre. Ils veulent vendre, ouais, ils ne savent pas à qui vendre. Donc la jeunesse, elle n'est pas encore touchée. Alors maintenant, le problème, c'est pas seulement qu'ils ont vu. Le problème, c'est que c'est un décalage dans la tête. C'est un décalage. Maintenant, à un moment où l'enfant il devait rêver, on l'empêche de rêver parce qu'on le rend dans une réalité qui n'est pas sa réalité. Maintenant, il se retrouve avec des problèmes d'adulte, alors qu'en fait, il n'a pas les moyens d'assumer ça. C'est pour ça que nous, en tant que parents, et encore plus en tant que parents juifs, on doit avoir cette ambition de donner à l'enfant ce qu'il a besoin au niveau structurel. Et maintenant, encore une fois, peut-être qu'à un certain moment, ça peut mal passer, ça peut être mal pris, ça peut être mal compris, oui. Surtout quand on est entre deux, parce qu'on a d'un côté la société qui nous pousse d'un côté, et d'un autre côté, nous, on veut donner une éducation. Je vois les parents, ils viennent, mais Rav Eshet, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, elle veut absolument sortir le soir, elle dit que j'étouffe, elle dit qu'elle n'a pas le droit de vivre, elle dit que je ne fais pas confiance, mais elle a 14 ans. C'est difficile en 2013 de dire à une jeune fille, attention, je te préviens, jusqu'à ton mariage, tu passes pas une nuit dehors. Tu dis, papa, mais c'est au Moyen-Âge ou quoi? Comment tu vas faire? Et pourtant, ces règles-là, c'est des règles qui ont préservé notre peuple depuis 3500 ans. C'est pas de ce matin. C'est des principes. On a des principes dans la pudeur, on a des principes dans la relation, on a des principes dans l'échange, on a des principes dans les respects. On n'est pas né ce matin. On a des milliers de règles qui ont préservé notre peuple. Maintenant, le goy, tous les 8 ans, il change de règles. Nouvelle approche, nouvelle école, nouvelle orientation. C'est comme qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de l'éducation, il change tout le programme. Maintenant, il faut 30 ans pour expérimenter un programme. Comment c'est possible que tu changes tous les gouvernements? Là, tu dis, non, c'est différent. Maintenant, l'autre a beaucoup d'autorité. Alors, non, beaucoup. Il faut laisser les enfants réfléchir tout seuls. Alors, maintenant, il faut les diriger. Alors, maintenant, il faut les casser. Alors, maintenant, il faut quelqu'un avec eux dans la classe. Alors, il faut les enlever de la classe. On dit, comment ils font les enfants? Maintenant, nous, Baruch HaShem, nos règles, elles ne datent pas de ce matin, elles ne datent pas du gouvernement, elles datent de 3500 ans. Elles ont produit des millions et des millions et des millions de tzadikim. Pas 3 ou 4 ou 5. Ouais. Et je vous ai déjà expliqué qu'un tzadik, il est obligé d'être aussi équilibré et obligé d'être aussi autonome. C'est interdit dans la Torah de fabriquer des brels. Des imbéciles. Même de manière industrielle. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va prendre ce challenge de l'autorité, il faut qu'on accepte de prendre le risque aussi, peut-être pendant un moment, de ne pas être compris par l'enfant, peut-être de ne pas être aimé. Deuxièmement, c'est qu'il va falloir utiliser les bons outils. Ni d'être trop sévère, oui, ni d'être trop cool. Donc ça veut dire que c'est un dosage qui va être nécessaire. Après, la troisième problématique, c'est que c'est différent pour chaque enfant. C'est encore plus compliqué. Nos proches doivent avoir des règles, elles marchent pour tout le monde. En vérité, il faut en plus adapter à l'enfant. Comme quand tu achètes un vélo,
Ben, tu peux pas donner un petit gars, je vais pas lui acheter un vélo à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans, je vais lui acheter un grand vélo. Maintenant, il va tomber par terre. Tu es obligé de lui acheter un petit vélo, après un plus grand vélo, donc tu vas adapter. Maintenant, non seulement ces règles-là, elles faut les adapter à l'âge de l'enfant, mais c'est possible que les règles que tu as utilisées pour le grand, ils ne marchent pas pour le petit. Il va falloir encore adapter, parce que lui, le plus sensible, lui, comprend du premier coup, lui, il comprend pas, faut que tu adaptes. Ça veut dire que c'est un travail. C'est un travail perpétuel. J'ai toujours dit, j'arrive pas à comprendre comment les gens qui ont la télé, qui sortent le soir, qui prennent des vitamines, comment ils ont le temps? Comment ils ont le temps? Nous, avec les enfants, on n'a même pas le temps. Réfléchir, remettre en place, rediscuter, revoir, retruquer. Chaque jour, c'est une réflexion. Et c'est un passage de la Torah. C'est marqué Veshinan Tam Levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Un des rabbis de Lubavitch, il a dit, ça c'est une mitzvah assez, mais la Torah c'est une mitzvah positive de réfléchir à l'éducation de ses enfants tous les jours. C'est-à-dire que celui qui ne réfléchit pas tous les jours à ses enfants, il rate une mitzvah. Oui, il rate une mitzvah. Chaque jour, tu dois réfléchir comment je vais faire, comment je vais fonctionner, comment je vais truquer. Ah, les gens, ils disent, moi, c'est grâce à Dieu, je n'ai pas besoin, ça marche tout seul. Non, 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 eux, ils font de l'élevage, ils ne font pas de l'éducation. L'élevage, oui. L'agriculture, ils arrosent les plantes, ça pousse. Jusqu'à demain, si Dieu veut, ça va aller. Non, l'éducation, c'est très précis, c'est très adapté, c'est très fin. Chano Anar Alpidarko, tu vas éduquer l'enfant selon son chemin à lui. Sinon, ça serait marqué les filles d'Arkecha, selon ton chemin à toi. Moi, j'ai mes principes, moi, j'ai ma personnalité. Je vais fabriquer des bouteilles de confrères, toutes les mêmes, une à côté de l'autre. Non, les filles d'Arco, selon son chemin à lui. Ah, tu veux dire, mais comment c'est possible que j'ai tellement d'enfants différents puisqu'ils viennent tous du même père et de la même mère? Enfin, j'espère. Eh bien, c'est bien, tu viens de découvrir qu'en vérité, toi-même, tu as plusieurs facettes. Toi-même, tu as plusieurs facettes. Et au présent. Et après, tu as même plusieurs facettes dans le temps. C'est-à-dire que l'enfant que tu as conçu à 20 ans, et l'enfant que tu as conçu à 25 ans, et l'enfant que tu as conçu à 30 ans, l'enfant que tu as conçu quand ça allait bien avec ton mari, l'enfant que tu as conçu quand ça allait mal, l'enfant que tu as conçu quand tu étais en déprime, quand tu étais en bonne santé mentale, c'est pas le même enfant. Alors ça en fait des enfants différents. Ouais. On n'est pas des machines comme ça. Une presse, tac, dès que tu as fait le moule, ils sortent tous pareils. Non. Des fois, tu as 3-4 modèles, même physiquement, des fois dans... Tu as, à partir d'une dizaine, sinon tu ne peux pas comparer, mais à partir d'une dizaine, tu vois qu'en fin de compte, tu as 3-4 modèles déjà physiques. Alors, combien de modèles mentaux? C'est impossible de calculer. Ouais. Donc, cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'il va falloir, travailler en luttant un petit peu, entre guillemets, contre sa sensibilité des fois. Si tu penses que ce que tu fais, c'est vrai, et que ce que tu fais, c'est nécessaire, il va falloir le faire. Pourquoi? Parce qu'on va voir un peu plus tard qu'une des choses qui déstabilise le plus, c'est l'instabilité justement des parents. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, des gens qui ne savent pas ce qu'ils pensent, des gens qui font en fonction d'eux, des humeurs, ou de l'ambiance, ou de l'opinion des enfants. Un peu comme les gouvernements qui sont nommés par le peuple, mais qui font en fonction de l'opinion du peuple. Donc ils font des sondages, alors le peuple il n'est pas content, alors ils ne font pas, après le peuple il est content, alors ils font... Pas, mais le peuple, il a nommé le gouvernement, et le gouvernement, il demande au peuple de décider. Alors, pourquoi il y a un gouvernement? C'est pareil. Oui. Si les enfants ne sont pas rassurés par les parents, parce que eux-mêmes, les parents ne se conduisent pas comme des parents, donc ça veut dire que ça ne va pas marcher, ça ne fonctionnera pas. C'est marqué ici qu'en fin de compte, le plus difficile, ça va être justement de préserver et de contrôler ses émotions. Parce que l'enfant, en réalité, même des fois, il y a des enfants qui ont l'air durs, des enfants qui ont l'air fermés, qui ont l'air sûr d'eux, mais en réalité, un enfant reste un enfant. Un enfant reste un enfant. Un enfant, ça veut dire que c'est une masse de sensibilité énorme. Donc l'enfant, lui, il perçoit mes émotions, il perçoit mes pertes de contrôle, il perçoit mes déceptions, il perçoit mon impatience, il perçoit ma confusion. Je vous avais dit à l'époque, c'est une phrase très importante qu'il faut se répéter à peu près 28 fois par jour, c'est que l'enfant ne comprend rien, mais il ressent tout. Donc, on ne peut pas tricher avec l'enfant. L'enfant, il sent que je ne l'aime pas. L'enfant, il sent que je l'aime. L'enfant, il sent que je suis déçu. L'enfant, il sent que je suis content. Il sent. Alors, il dit, c'est ça, il y a un frère, mais il ne sent pas. Ouais.
L'enfant, il sent pas.
Ou alors, il sent bien. C'est-à-dire, il me sent que je suis avec lui. Il dit cette logique-là, que si quelqu'un, il n'arrive pas à maîtriser ses émotions, donc, malheureusement, il va créer des situations d'instabilité qui, en fin de compte, il va passer sa vie à réparer. Ça, souvent, je vous ai dit, un homme, souvent, on est dans une logique. Nous, on croit que comme on peut réparer, c'est pas grave si on casse. On casse, on répare. On casse, on répare. On casse, on répare. Maintenant, moi, je pense qu'un jour ou l'autre, il faut décider de ne plus casser. Il faut avoir cette ambition, ce qu'on appelle en français le geste précis. Tu vas dire ce qu'il faut dire. Tu vas faire ce qu'il faut faire. Tu vas le faire. Tu vas pas dire, eh ben, écoute, je l'ai fait comme je l'ai senti, comme c'est venu, et puis après, moi, si tu veux, ben, c'est pas grave, de toute façon, je peux toujours m'excuser. Parce qu'en fin de compte, c'est une disposition mentale. Toi, tu es organisé dans le bédiéved, tu es organisé dans la posteriori. Alors que tu peux être organisé dans l'a priori. Et Dieu, il va t'aider dans l'a priori. Tu peux avoir une recherche de perfection, tu peux avoir une recherche d'efficacité, tu peux le faire, et tu peux ambitionner de faire les choses bien. Ah, tu vas dire, mais je ne contrôle pas tout. Eh bien, c'est bien, tu commences à devenir modeste. Donc, tu sais qu'il y aura une part de Dieu à l'intérieur. Parce qu'en vérité, on va réfléchir, on va être psychologue, on va essayer de comprendre ce qui fonctionne. Mais il y a quand même une grande part de Dieu qu'en fin de compte, tu as fait ce qu'il fallait faire, premièrement. Ou alors, que l'enfant, il a compris ce que lui, il devait comprendre. Même quand tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. Ça, c'est une chose qui est compliquée. Ouais. C'est la part de Dieu. Disons, dans cette logique-là, que quelqu'un... il doit apprendre à maîtriser ses émotions. Maintenant, même si extérieurement, c'est-à-dire au niveau épidermique, on peut avoir des réactions, ouais, comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, quand je suis dans une pièce à 25 degrés et je sors dehors, il fait moins 2. Donc j'ai des frissons. Pourquoi? Parce que mon corps, à l'intérieur, il reste toujours à 37 degrés. Maintenant, pour m'adapter à l'extérieur, donc quand je suis dans la maison, donc le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il économise de la chaleur. Donc le sang, il va vers l'intérieur du corps. Et l'extérieur du corps, il peut être un peu froid. C'est pas grave, parce que de toute façon, je suis à la maison et il fait 23. Mais quand je sors dehors, le corps, il voit qu'il fait froid. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie du sang sur l'extérieur. Maintenant, la différence entre le sang froid et le sang chaud, ça crée des frissons. Maintenant, attention, allez, au niveau épidermique, j'ai bougé, j'ai vibré. Ouais, parce que c'est normal. Mais au niveau intérieur, je touche pas, je suis 37. Pourquoi? Parce que ça, c'est les membres vitaux. Le cœur, le système respiratoire, le système de digestion, il doit toujours rester à 37. C'est dangereux s'il baisse ou s'il monte, ouais, la personne va mourir. Maintenant, c'est exactement pareil. Ton être intérieur, il ne doit jamais bouger. Ton être extérieur, il peut bouger. C'est normal, tu réagis, ouais. Maintenant, au niveau de l'enfant, ton être intérieur ne doit jamais bouger parce qu'en fin de compte, c'est ça sa référence. C'est ton être intérieur. Donc toi, tu fais ce travail-là, et normalement, tu es censé l'avoir fait un petit peu avant la naissance des enfants, mais disons que tu vas beaucoup t'entraîner avec ta femme, avec ton mari, avec ta belle-mère, qui est une très très grande entraîneuse de stabilité, oui, émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand toi, tu dis « je ne vais pas bouger, je vais vivre des choses, il va se passer des choses, oui, mais moi, à l'intérieur, je ne vais pas bouger. » Comme ça, je vous ai dit plusieurs fois qu'on doit accepter que tous les événements sont mina shamaïm. Il y a des événements extraordinaires et il y a des événements extrêmement graves, mais la relation avec l'événement, l'impact de l'événement, c'est moi qui décide. Si moi je me construis, et moi je suis fort, et moi je me respecte, et moi j'ai ma dignité, alors l'impact il va être minime. Mais si moi je n'ai pas à construire l'intériorité, alors l'onde de choc elle va rentrer, elle va tout casser à l'intérieur. Maintenant aujourd'hui l'enfant il va me décevoir, l'enfant il va faire une bêtise. L'enfant, il va mentir. L'enfant, il va tricher. L'enfant, il va voler. Et j'ai dit, mais alors, je suis écœuré, je suis déçu. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que c'est pas à chaque fois qu'il fait froid, ça fera froid. Quand il fait froid, tu fermes le manteau. Et bien, quand il vole, des fois, tu dois fermer les yeux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu dois dire, attention, moi, maintenant, je vais pas remettre en cause mon amour et je vais pas remettre en cause ma relation à mon fils ou à ma fille, parce qu'il y a eu un événement. Il y a eu un événement. Ouais. Ça, ce recul, et ça c'est très important, il ne faut pas le confondre avec le laxisme. Il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas d'autorité. Ils disent ça ne sert à rien l'autorité, ça casse les enfants, ça les trouble, il faut leur donner de l'amour. Il faut donner de l'amour. Maintenant, moi personnellement, je pense que les gens qui pensent qu'il n'y a pas besoin d'autorité, c'est parce qu'en vérité, ils ont eux-mêmes un problème avec l'autorité. Eux-mêmes, ils ont un mal vécu de l'autorité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? ils font le contraire. Ils projettent leur malaise à eux. Ouais. Ils essayent d'avoir l'enfance qu'ils n'ont pas eue, parce que même à 40 ans, ils n'ont toujours pas compris à quoi leur a servi leur enfance. Ils sont encore dans la frustration de leur enfance. Ils n'ont pas réglé leurs problèmes avec leur enfance. Mais ça, en vérité, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris que même l'autorité, en vérité, c'est une expression d'amour. Même l'autorité, c'est d'amour. C'est l'inverse de ce qu'ils croient à eux. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de structure, alors il n'y a rien qui rassure. Comme ici, on est là, on est bien parce qu'il y a des murs, parce qu'il y a un plafond. Mais si on était dans la rue, on est dans un parc en train de parler, il y a des gens qui passent, ça juif, l'autre qui crie, t'insulte, comment tu vas faire ? Il fait froid, il pleut, on ne peut pas parler. Si, écoutez, Rav, on ne peut pas faire un cours dans un endroit normal. Oui, alors c'est ça le cadre. Maintenant, de la même manière que le monde physique, il a besoin d'un cadre, de la même manière, le monde mental, il a besoin d'un cadre. Ça, c'est la structure. Donc la structure, en vérité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rassure. La structure, elle donne la sécurité mentale. La structure, elle donne l'affirmation. Comme la différence entre la connaissance et l'ignorance. Les gens qui sont ignorants, ils ont des doutes, ils ont des peurs, ils ont des malaises. Les gens qui ont de la connaissance, ouais, qui utilisent leur connaissance pour se structurer, alors ils sont tranquilles, ils sont calmes. Et cette logique-là, c'est pour ça que toujours je vous fais le parallèle entre l'histoire des bénis Israël, d'accord, et l'histoire de l'homme. Parce que les bénis Israël, le Maharal de Prague, il dit que le peuple d'Israël, il est comparé à un homme. Maintenant, un homme, il a une histoire individuelle. L'histoire individuelle, elle, on a dit souvent, elle passe par trois étapes. Une étape qui s'appelle l'enfance, une étape qui s'appelle l'adolescence, une étape qui s'appelle l'adulte. Maintenant, l'étape de l'enfance, c'est quand, pour le peuple d'Israël, c'est quand les bénis Israël sont en Égypte. Maintenant, l'Égypte, c'est quoi ? Mitzrayim, en hébreu, c'est Metzarim. Metzarim, c'est des limites. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est une immense prison. C'est une prison, ouais. Tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. C'est comme l'enfance. L'enfance, c'est une prison. Il est prisonnier de l'école, prisonnier de la maison, prisonnier de ses parents, après attention, prisonnier de ses incapacités, prisonnier de ses émotions, prisonnier de ses peurs, prisonnier de ses complexes. Donc l'enfant, il est prisonnier. Après, il y a une troisième étape qui s'appelle la rentrée en Eretz Israël. Et là, c'est quand les Israël ont reçu la Torah. Ils sont matures, ils rentrent en Eretz Israël, et ça c'est l'âge adulte, donc là c'est le pays de la liberté, mais de la liberté assumée, pas de la liberté de délire et de je me déchire et je me lâche, la liberté assumée, et entre les deux, il y avait le passage dans le désert. On a déjà expliqué plusieurs fois que Amalek n'a pas attaqué les bénis Israël quand ils étaient en Égypte, il n'a pas attaqué les bénis Israël quand ils étaient en Israël, il les a attaqués quand ils étaient dans le désert. Pourquoi ? Parce que le désert, c'est quoi le désert ? Le désert, c'est Midbar. Midbar, c'est le désert, ouais. Amalek, c'est qui ? Amalek, c'est le représentant du Yetzer Hara. Maintenant, Pharaon aussi, c'est le représentant du Yetzer Hara. Il dit Pharo. Pharo, c'est les mêmes lettres que Péra. Péra, la mauvaise bouche. Maintenant, quel est le symbole du Yetzer Hara dans la Torah ? Dans le Maaseh Bereshit, dans la création du monde, c'est le serpent. Le serpent, c'est celui qui va inciter Adam et Hava à fauter. Et le serpent, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, si vous regardez les sarcophages égyptiens, sur la couronne du pharaon, il y avait deux serpents. Pas un, deux. Oui. C'est les symboles.
Le cobra et le faucon.
On va avoir les défauts, les vrais, ouais. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est quoi l'idée ? C'est qu'en fin de compte, Pharaon, il représente ça. C'est-à-dire que le travail de Pharaon, c'était d'enfermer les bénis Israël. Le travail de Pharaon, c'était de rendre esclaves les bénis Israël. De quoi ? De la matière. Donc maintenant, quand ils sortent d'Égypte, ouais, alors ils se libèrent des contraintes de la matière. C'est pour ça que chaque année, à Pessah, on doit sortir d'Égypte. On ne vient pas pour commémorer la sortie de l'époque, on vient nous-mêmes sortir de notre propre Égypte. Maintenant, il faut savoir que les trois quarts des Juifs sont restés en Égypte. C'est-à-dire que les trois quarts des gens sont emprisonnés dans leurs limites personnelles. Parce qu'ils sont soumis à leur pharaon personnel, c'est-à-dire leur Yetzer Hara. Maintenant, nous, on doit éduquer nos enfants pour qu'ils apprennent à sortir d'Égypte. Maintenant, on sait que quand ils vont sortir d'Égypte, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de leur Yetzer Hara intérieur, ils vont être attaqués par un Yetzer Hara extérieur. Le Yetzer Hara extérieur, il s'appelle Amalek. Maintenant, Amalek, on a déjà expliqué plusieurs fois aussi que Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Safek. Safek, c'est le doute. Donc le doute, il crée la place du Yetzer Hara. Maintenant, il y a deux genres de doutes. Il y a un doute de l'ignorance et il y a un doute du doute. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doutent parce qu'ils ne savent pas et il y a des gens qui doutent parce qu'ils ne sont pas sûrs. Maintenant, quelqu'un qui doute parce qu'il ne sait pas, il faut lui apprendre. Maintenant, quelqu'un qui doute parce qu'il n'est pas sûr, il faut le rassurer. Ouais, comme des juifs. Il y a des juifs, par exemple, qui ne savent pas. Ils ne savent pas, ils n'ont jamais appris. Ils ne savent pas. Tu leur donnes un petit peu de Torah. Après, il y a des gens qui ont appris. Ils ont appris, ils ont été à l'école juive et tout ça. Mais quand ils ont vu le rabbin qui sortait avec la Goya, ils ont commencé à avoir des doutes. Donc ceux-là, ils n'ont pas un problème de connaissance. Ils ont un problème que la tête, elle est coupée en deux. Donc ceux-là, tu ne peux pas leur répondre à leurs questions, parce qu'ils n'ont pas de questions. Tu dois leur enlever leur insécurité. Parce qu'ils ont vu quelque chose qui est tordu. Ils ont vu un truc qui est bizarre. Ils ont vu un truc qui est incohérent. Ouais. C'est comme s'ils surprennent leur père sur un site internet à 4h30 du matin avec un truc dégueulasse. Il va falloir qu'il explique qu'il est en train de faire un cours d'anatomie ou là de chirurgie. Comment il va faire? Ouais, c'est difficile. Ah, si c'est la réalité, c'est la vie. Alors il y en a qui font, ils disent, assieds-toi avec moi comme ça, je vais te faire gagner du temps. Et il y en a, ils ont l'archimoire, ils savent comment se faire. Pourquoi? C'est l'incohérent. Donc en fait, l'enfant, à ce moment-là, il va avoir la déchirure. Il va y avoir la déchirure du doute. Oui. Mais normalement, si on lui a donné ce qu'il fallait à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quand il va venir le Yetzer, quand il va venir le doute, quand il va venir l'ambivalence, il aura les réponses. Le problème, c'est comment il a avalé les questions. Il a avalé les réponses pour avoir les réponses. Il faut qu'il les ait avalées. Ça va? Vous suivez où? Ouais. Et pour qu'il les avale, il faut une structure dans la tête. Sinon, ça lui passe au-dessus de la tête. Donc, ça veut dire que l'autorité de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui développe la sérénité, la confiance qu'il a dans ses maîtres et dans ses parents, c'est ce qui va faire les compartiments, les tiroirs où on a mis la connaissance. Voilà qu'est-ce que c'est le, voilà qu'est-ce que c'est la récompense, voilà qu'est-ce que c'est la punition, voilà qu'est-ce que c'est Dieu, voilà ce que c'est la bonté, voilà qu'est-ce que c'est le chesed, voilà. Il a tout ça. Donc, on lui a mis, mais il faut la structure. S'il n'y a pas de structure, ça va nulle part. Et tu vois, les gens, ça leur passe au-dessus de la tête. Des fois, même après la yeshiva, ils ont encore des doutes. Pourquoi? Parce qu'au fond, au fond, les choses, elles n'ont pas été rangées quelque part. Il y a cette logique-là, que le doute, en vérité, c'est le terrain de la peur. Ouais. C'est-à-dire que le terrain de développement du doute, c'est la peur. Donc la peur, elle vient du doute, et le doute, il vient de la peur. Le contraire du doute, oui, c'est l'antidoute, l'antidote. C'est l'antidoute. D'accord? Maintenant, Hachem, il a dit, Barati lecha yetserara, Barati lecha Torah tavlin. J'ai créé le yetserara, le mauvais penchant, j'ai créé la Torah en médicament. Donc, puisque le yetserara, c'est le doute, donc la Torah, c'est l'antidoute. C'est l'antidoute, c'est-à-dire, ça doit répondre aux questions de l'enfant. Il faut lui apporter, il faut lui expliquer, il faut beaucoup, beaucoup travailler pour que les enfants ils deviennent intelligents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un il a un doute encore, entre ce que va coûter la discipline et ce que va rapporter la discipline, il doit savoir que l'indiscipline à long terme, elle est beaucoup plus dangereuse que la souffrance de la discipline à court terme. Parce que pendant un certain temps, il va être stressé, parce que tu vas dire, assieds-toi, révise tes maths, relis ta Gemara, rentre à l'heure, lève-toi, va dormir. Ouais. Pourquoi tu l'obliges? Pourquoi tu le casses? En vérité, tu le rassures. Après, plus tard, maintenant qu'il a avalé cette structure, ouais. C'est comme les sportifs, ils font des années et des années d'entraînement. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, recommence. Après, ça devient instinctif. Donc en vérité, tu crois que tu fais de la répétition, tu crois que tu le saoules. Numéro 1, c'est une grave erreur de croire que ça rentre en 3 fois. Peut-être ça rentre en 30 000 fois. Combien tu vas lui dire, enlève les doigts de ton nez? Combien tu vas lui dire, lève le battant quand tu vas aux toilettes? Combien tu vas lui dire, rince la baignoire après la douche? Mais c'est pas grave, je vais le faire pour lui. Mais t'as pas compris, aujourd'hui, il rince pas la baignoire. Demain, il va laisser 7000 euros découverts. C'est la même chose. Mais quand il se retourne pour dire, ah, je vais pas laisser la baignoire comme ça. Donc quand il ferme la société, il dit, je paye tout le monde. Mais quand il laisse la saleté dans la baignoire, il dit, eh ben, c'est pas grave, le syndic qui va payer. Ou alors les fournisseurs, eh ben, tant pis pour lui, c'est son mazal. D'où il a appris ça? Je te dis, rincer la baignoire après la douche. Donc ça s'appelle en français un apprentissage. C'est un apprentissage.
répéter des fois et des centaines de fois et des milliers de fois, et c'est pas grave. C'est pas grave, n'ayez pas peur. Parce que les gens, ils s'énervent. Les gens disent, oui, je lui ai expliqué trois fois, il comprend pas, de toute façon, il est bête, il est comme sa mère. Non, non, non. Il dit cette logique-là. C'est qu'il va y avoir cette discipline, il va y avoir cette répétition, il va y avoir cette imposition, il va y avoir ces règles. Alors je vous donne le secret, c'est que toutes ces règles-là, elles doivent être entièrement fondées sur de l'amour. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que tu vas avoir une affirmation, tu vas avoir une autorité, mais le fond de toi, tout ce qui va motiver ça, ça doit être de l'amour. C'est très très dangereux de ne pas devenir un colonel de l'armée, de ne pas devenir un caporal. Ça veut dire, comme en hébreu on dit Chomer Vetsura. Chomer Vetsura. Chomer c'est la matière, et Tsura c'est la structure intérieure. Maintenant la matière, ce que l'enfant va voir, ça va être rentre à ta place, assis-toi, fais ce que tu as à faire, fais tes devoirs. Lui il va voir ça. Mais il doit sentir l'amour. Il y a de l'amour à l'intérieur. Je vous ai déjà expliqué que un enfant, des fois tu lui mets une tannée, bon c'est très rare, mais si ça arrive, si tu lui mets une tannée par amour, il va t'aimer après la tannée. Si tu lui mets une tannée pour te défouler, il va te haïr après la tannée. Pourtant, c'est la même tannée. C'est-à-dire que sur une échelle de Leister entre 0 et 10, tu lui as mis une tannée de telle intensité.
Qu'est-ce que cette tannée en a
parlé ? Ah, une derba. Pas sur la figure, hein.
Ah,
il a fait une grosse bêtise. Ouais. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'arriver là. Parce que normalement, si tu l'as regardé, ça devrait lui faire quelque chose, ouais. Les gens, ils commencent par les coups. Alors après, quand ils regardent, l'enfant, ils ne s'en rendent pas compte. Mais si quelqu'un, il l'a fait progressivement, et que l'enfant, il est choqué parce qu'il voit qu'il a fait quelque chose de grave, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crées un lien avec l'intériorité de l'enfant. Et ça veut dire que c'est le fondement. Le fondement, ça doit être de l'amour. Si le fondement, ce n'est pas de l'amour, la structure, elle va être dangereuse. Comme le chirurgien, il tient un scalpel. Le scalpel, c'est un truc quand même qui va lui ouvrir le ventre. Mais c'est pour soigner. Le même scalpel, c'est pour tuer, c'est Jack l'Éventreur. Ouais. C'est le même scalpel. Donc c'est exactement pareil maintenant. Toi, au moment où tu vas faire l'acte, au moment où tu vas dire à l'enfant, au moment où tu vas lui reprocher, au moment où tu vas lui tirer l'oreille, au moment où tu vas le mettre au lit, au moment où tu vas le punir, réfléchis bien si tu l'aimes. Parce que si tu ne l'aimes pas, la même structure, la même discipline, elle va créer la haine. La même. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ouais. Là, j'ai dit, je comprends, mais moi j'ai fait ce que j'avais à faire, de toute façon. Hein. Mais comment qu'est-ce que vous pensez de votre enfant? Ouais, mais il dégoûte, il est nul, il est bidon, c'est un pauvre type. Alors fais gaffe. Parce que toi, en vérité, c'est comme la discipline, c'est comme la structure, et les sentiments, c'est comme le fluide à l'intérieur de la structure. Donc tu as mis en place comment ça s'appelle?
Le tuyau.
Tu as mis en place, oui, le caténaire, comment ça
s'appelle?
Cathéter. Tu as mis en place le cathéter. Attention à ce que tu vas mettre dans la transfusion maintenant. Donc la structure, c'est le cathéter. Ouais. Tu mets de l'amour, il reçoit de l'amour. Mais par la structure, hein. Pourtant, ça fait mal de mettre l'aiguille. Mais c'est pour son bien. Pourtant, des fois, ça brûle le produit qu'on met à l'intérieur. Mais il sait que c'est pour son bien. Alors il accepte. Il dit cette logique-là. Ça veut dire que si moi, j'ai mis de la discipline, j'ai mis de l'autorité, j'ai mis de la structure, mais je l'ai fait par amour. Et bien, bizarrement, l'enfant, non seulement il va accepter l'autorité, mais en plus, ça va donner à l'enfant l'envie de faire plaisir aux parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme une drogue. Quand l'enfant, tu lui donnes l'amour, donc lui, il veut encore de l'amour. Mais il y a une différence entre l'amour que l'enfant il a acquis par ses bonnes actions et l'amour que l'enfant il reçoit gratuitement. Et bien, si tu donnes un amour gratuit, l'enfant il va être comme un drogué qui ne voudra pas payer. Mais si tu lui donnes un amour payant, l'enfant il va t'aimer pour cet amour-là, il va rechercher cet amour-là. Or, il sait que pour recevoir cet amour-là, il faut qu'il donne satisfaction. Donc, c'est ce qu'il va chercher à faire. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent. Après, ils deviennent des. Comment ça s'appelle? Des dealers d'amour. L'enfant il devient un vampire. Il va profiter, il va les user. Il va leur mentir, il va tricher, il va faire la pitié, il va faire le chantage émotionnel. Tu dis, mais comment c'est possible? Mais d'où il sort? Mais c'est toi qui l'as éduqué comme ça. Parce que tu lui as pas montré que les choses, elles sont méritées. C'est mérité, comme la confiance, ça se mérite. Comme l'amour, ça se mérite. Comme chaque chose, ça se mérite. Donc en fait, ce que toi, tu croyais être une contrainte, en vérité, c'est la solidité. C'est comme quand tu montes une maison, ouais.
Tu commences pas par le papier peint, c'est très rare. En général, tu mets les murs, après les murs, tu mets l'isolation, après tu mets le plâtre, et après tu mets le papier peint. Mais non, les gens, je t'en prie, mets le papier peint. Le reste, c'est des bêtises, de toute façon, je m'occupe pas des détails. Mais c'est ça les fondements. Parce qu'une maison qui est en béton, tu peux vivre dedans, mais avec trois rouleaux de papier peint, tu peux pas habiter. Tu vois les gens que mentalement, ils habitent dans du papier peint. Parce que tous les touches, tous les déstabilisent, tous les troubles. Et quand tu fouilles, comment il était ton père? Ah, il était pas là. Et comment était ta mère? Ah, ça lui prenait la tête. Alors l'enfant, il a grandi dans le papier peint. Il n'y a rien. Ouais. C'est que les choses, elles n'ont pas été mises en place. Donc une discipline qui est faite sans amour, elle devient, c'est ce qui fabrique l'hostilité de l'enfant, la haine de l'enfant et la distance de l'enfant. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'a pas reçu l'amour. Alors combien de fois quelqu'un il va venir dans un puits où il n'y a pas d'eau? Combien de fois? Il vient une fois, il n'y a pas d'eau. Il vient deux fois, il n'y a pas d'eau. Il vient trois fois, il n'y a pas d'eau. Alors après, il y a deux scénarios. Soit il devient indépendant, il ne vient plus chercher l'eau. Soit toute sa vie, il va chercher des gens qui vont lui donner l'eau qu'il n'a pas reçu dans le puits. C'est ses parents. Dans les deux cas, ce n'est pas bien. Ouais. On ne veut pas. On veut que l'enfant soit normal. Donc ça veut dire que ce qu'on lui donne à ce moment-là, dans cette période-là, qui est très très importante parce qu'en fin de compte, ça va être le fondement de toute sa vie. Et moi, je vous dis, sur les quelques dizaines de milliers de personnes que je rencontre chaque année, je vois que si l'enfant s'est mal passé, ça va être compliqué. On va bricoler. Ça va être difficile. L'enfant s'est mal passé. Oui, l'enfant, il n'a pas reçu ce qu'il avait besoin de recevoir. Comme des carences au niveau alimentaire, il y a des carences. Alors automatiquement, c'est normal. De la même manière, il y a des carences au niveau mental, ça veut dire que les choses, elles sont nécessaires. Les choses, elles sont nécessaires. Or, comme il y a un bien nécessaire, il y a un mal nécessaire. Le mal nécessaire, il fait grandir la personne. Alors, c'est pas facile, des fois, parce qu'il faut être dur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on épouse une personne du sexe opposé. Parce que normalement, le papa, il est plus facilement dur. Et la maman est le plus facilement sympathique. Mais pas le contraire. Ouais. Parce que quand le papa il est trop cool, alors la mère elle va jouer le père. Maintenant qu'est-ce que ça fait? Ça fait un système compensatoire. L'un par rapport à l'autre, chacun il va apporter à l'autre. Donc la femme elle va calmer le mari, lui dire écoute, il faut arrondir les angles. Et le mari dit ouais, mais quand même, il ne faut pas oublier les objectifs. Alors c'est bien, ils vont s'arranger les deux. Mais s'ils sont du même sexe, comment ils vont faire? C'est impossible. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la différence, elle est nécessaire. Maintenant, pourquoi elle est nécessaire? Parce qu'à l'intérieur de l'enfant aussi, il y a un côté féminin, il y a un côté masculin. Il y a un côté cœur, il y a un côté raison. Il y a une midata digne, une midata famille. Il y a un côté enfant, il y a un côté adulte. De toute façon, on est divisé en deux. Donc, c'est pas grave. Cette logique-là, elle donne une chose incroyable. C'est que l'équilibre, ça va être perpétuellement entre la structure et le fluide. Ça va être entre le din et le rachamim. Alors si c'est ça, c'est pour ça que c'est très important déjà dans un premier temps de faire un effort pour contrôler ses humeurs. Très important, ouais. Pourquoi encore une fois? Parce qu'on est des repères. Donc si nous-mêmes on est instable, et si on est caractériel, et si on crie, et si on se contrôle pas, là j'ai eu un cas là d'une personne, mais très compliqué. Maintenant son fils, il est pas scolarisé depuis un an et demi, parce que parce qu'il travaillait pas à l'école. Donc la femme, elle avait peur de dire au père, parce que comme c'est un grand coléreux, il crie, il frappe l'enfant, qui a 8 ans. Donc maintenant, elle a sorti de l'école. Après l'école, elle a changé d'école. La deuxième école, elle a foutu dehors. Elle a pas dit non plus. Maintenant, il est obligé de le mettre dans une école boy. Et le père, il est toujours pas au courant, parce qu'il a toujours peur. Maintenant, l'école boy l'a renvoyé. Elle sait plus où mettre, ni à l'école boy, ni à l'école juive. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'emmène le matin. Elle fait genre, elle le dépose. Après, quand le mari va au travail, elle le ramène à la maison. Et le soir, elle le ramène à l'école et elle le fait sortir de l'école. Je dis, jusqu'à quel niveau de folie vous allez arriver? Rien que par la peur, tellement l'autre, il crie. C'est-à-dire qu'il se rend même pas compte qu'il est enceinte. Maintenant, la femme, elle ment au mari. Maintenant, l'enfant, il est obligé d'apprendre à mentir. Maintenant, c'est la grand-mère qui m'appelle. Elle me dit, mais il n'arrête pas de mentir, cet enfant. Mais il ment, comme la mère, elle ment, comme le père, il ment. Maintenant, le père, il se moque lui-même de croire que la colère, ça règle tout. La mère, elle se moque elle-même parce qu'elle ne veut pas se confronter avec le mari. Ouais. L'enfant, il ment à ses parents parce qu'il ne veut pas se confronter avec le père et la mère. Tu te rends compte? Ça fait déjà deux générations de fous. Après, tu t'étonnes qu'il y a des schizophrènes dans la famille, et il y a des paranoïas, et des... Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu le fabriques, tu le génères, tu le développes.
Mais tout ça de quoi? Simplement d'une chose très simple, qu'il n'y a pas le contrôle des humeurs, le contrôle des nerfs, le contrôle des émotions. Ça veut dire que quelqu'un il doit réfléchir avec sa tête. Avant de faire quelque chose, je dois réfléchir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? J'avais expliqué le principe du miroir, non? Réfléchir. Ça vous dit quelque chose? Et celui qui marche avec un miroir comme ça, pour regarder derrière, je l'ai dit ça aussi ou non? Non? J'ai encore découvert un autre idouche avec le miroir. Il faudrait écrire un livre sur le miroir. On a dit plusieurs fois que quand quelqu'un y réfléchit, c'est quoi réfléchir? C'est-à-dire qu'il fabrique une image de sa réalité. Par exemple, là vous êtes là, quand je vous vois, je ne réfléchis pas. Mais quand je ferme les yeux et que je refabrique l'image de vous dans ma tête, ça s'appelle que je réfléchis. Ça va? Maintenant, quand je vis sans réfléchir, ça veut dire que je vis sans fabriquer l'image dans ma tête. Le problème, c'est que quand je réfléchis, ça veut dire que je fabrique l'image, donc je vis en temps réel ce que je vis. Maintenant, il y a des gens, ils vivent, ils mangent, ils dorment, ils font des enfants, ils font la bar mitzvah, ils accouchent, ils travaillent, mais en vérité, ils dorment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Ça va? Alors un jour, il se réveille, comme ça, il sort du coma. Ah, la petite, elle a grandi. Ah, l'enfant, il a des problèmes. Ah, il faut payer les dettes. Ah, pourquoi? Il dit, mais ah, j'aurais dû réfléchir. Je n'étais pas conscient. Je ne me rendais pas compte. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vécu, mais ils n'ont pas réfléchi. Vous suivez ou non? Comme un miroir. Par exemple, le miroir, toute la journée, il réfléchit. Mais en réalité, il a pas mal à la tête. Parce qu'il ne fait que réfléchir. Ben, il y a des gens, ils vivent sans réfléchir. Donc pour ça, je vais donner le miroir. C'est comme si tu portes un miroir, comme ça. Ouais. Et le miroir, il te permet de voir ce qu'il y a derrière toi. Mais ce qui est derrière toi, c'est là où tu veux aller. Donc normalement, tu devrais tourner et marcher comme ça. Mais toi, tu ne veux pas marcher comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le miroir et tu regardes dans le miroir. Et grâce au miroir, tu marches. Tu me suis bien ou non? Si tu cours le miroir, tu ne sais plus où tu vas. Ça va? Ça veut dire que quand moi je réfléchis, c'est-à-dire que je fabrique une image de ma réalité dans ma tête. D'accord? Maintenant, quand je veux comprendre l'autre, je ne peux pas regarder l'autre. Je dois réfléchir à l'image que l'autre il s'est fabriquée de la réalité dans sa tête à lui. Après, je réfléchis comment l'enfant, lui, il a fabriqué l'image de la réalité dans sa tête à lui. C'est ça, réfléchir. C'est bon, non? Quand je ne réfléchis pas, je ne vis pas en temps réel. C'est dangereux. Les gens, ils ont des surprises. Tu réfléchis à ta société, ça s'appelle la stratégie, la comptabilité. Ouais. Tu réfléchis à ton couple, où est-ce qu'on en est, j'ai vieilli, t'as vieilli. Alors on a une autre approche différente. Bon, parce que je réfléchis. Si je ne réfléchis pas, je ne vis pas la réalité. Mais la réalité, elle passe. Et après, je tombe dénu. Je ne comprends plus rien, je ne suis plus dans le coup, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. En vérité, ça vient de ça. Parce que tu n'as pas fabriqué ton image personnelle. C'est pour ça qu'il est interdit de vivre sans réfléchir. Donc maintenant, il y a une humeur qui monte, il y a une nervosité qui monte, il y a une déception qui monte. J'ai dit, je vais m'énerver, mais je réfléchis d'abord. Quand je réfléchis, je remets dans le contexte, dans ma tête. Je dis, attention, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est difficile, je suis fatigué, je suis pas bien, j'étais nerveux déjà avant d'arriver, je me suis pris la tête au téléphone, il y avait des embouteillages. Donc quand j'y réfléchis, je remets la situation dans un contexte, automatiquement, déjà, j'ai enlevé les trois quarts de l'émotion. Ça va faire que je vais pouvoir donner à l'enfant le meilleur. C'est aussi pour ça que le conjoint, il est là. Ouais, on va prendre une décision, on va en parler ensemble. Pourquoi on va en parler? Parce que toi, tu vas m'amener une autre approche, parce que toi, tu réfléchis autrement. Donc, quand moi, je te demande ton avis, c'est comme si moi, je demande à regarder dans le miroir de ma femme. Moi, je demande à regarder dans le miroir de mon mari. Donc, ça va être encore une autre approche de réflexion, c'est-à-dire un autre recul. De la même manière, quand je vais calculer, c'est-à-dire je vais prendre le recul, je vais réfléchir à l'enfant, qu'est-ce qu'on fait au fond, qu'est-ce que je peux attendre de lui? Moi, souvent les gens ils m'appellent et tout ça, et toujours je demande à la personne, oui mon mari il est comme ça, ma femme il est comme ça, je dis écoutez madame, est-ce que votre mari, il ne veut pas ou il ne peut pas? S'il ne peut pas, c'est pas la peine de vous prendre la tête à essayer de le faire changer, il ne peut pas. Vous-même vous dites qu'il ne changera jamais. Mais quand même, vous lui reprochez ce qu'il est. C'est à l'envers aussi. Ouais. C'est comme si tu veux qu'un chien il fasse du piano. Il ne va pas faire du piano. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Il n'a qu'à s'asseoir et faire du piano. Il ne va pas faire du piano. Ils ne font pas du piano. Maintenant, toi, tu veux un mari intellectuel. Il n'est pas intellectuel.
Toi, tu vas à Marie-Manuel. Il n'est pas Manuel. Il ne sait pas, il ne sait pas. Lui, il gère la bourse, il gère. Tu lui prends un tournevis, il ne sait pas par quel côté le prendre. L'autre, tu lui donnes une machine à laver, il la démonte, il la remonte. Tu lui dis, viens, on réfléchit à long terme. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire long terme? Lui, il croit que c'est les termes pour prendre le bain ou le... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas exiger de ton mari ou de ta femme plus que ce qu'elle est. Alors, à plus forte raison qu'à l'enfant, tu ne vas pas exiger plus que ce qu'il est. Donc, il faut bien que tu te mettes dans la tête que celui-là, il a 8 ans. Et après, il a 10 ans. Et après, il a 14 ans. Alors, arrête d'attendre de lui qu'il ait ta maturité à toi de 32 ans ou là de 35. Parce que ta déception et ta nervosité... C'est à cause de ça. Parce que toi, tu veux pas qu'il perde le temps, parce que toi, tu projettes. Mais la projection, c'est pas fait pour massacrer l'autre. La projection, c'est fait pour orienter l'autre. C'est pour avoir de la patience. C'est pas fait pour casser. Toi, tu casses parce que tu n'as pas le temps, tu as des soucis au travail, tu as le skill dans la douche. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fracasses. Tu l'as fait métier, tu fracasses. Mais non, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut prendre son temps. À vous, Métoudine Badine. Ouais, il y a une loi dans Pirkei Avot. Chaque jugement. Il y a un jugement qui se pose devant toi, le Bedin il s'assoit, il écoute, il voit le cas, les tenants, les aboutissants, il juge. Même si 5 minutes après, j'ai exactement la même question, je dois recommencer tout le processus, les tenants, les aboutissants, les intérêts de chacun, les calculs, et refaire la lara. Mais je crois que c'est la même chose. Non. Tu dois refaire le calcul. Ouais. Donc toi, maintenant, tu dois gérer la sortie de l'école, tu dois gérer l'autre qui a un mot dans son truc, et tu dois gérer l'autre qui a mis un doigt dans l'œil de sa sœur. Comment tu vas faire? Alors tu joues là, tu vas au plus vite. Tu dis, puisque je dois préparer le repas, je vais emmener une dernière fois là, l'autre dans la chambre, et moi je suis tranquille à la cuisine. Non, tu ne peux pas faire ça. Il va falloir que tu gères un truc par un truc. Tu vas dire, comment je vais faire? Je vais passer la nuit, maintenant je dois m'amener l'air. Asseyez-vous, tu ne dois pas mettre le doigt dans l'œil de ta sœur. Alors ça, c'est une règle dans tous les problèmes qu'on peut avoir avec quelqu'un. Dans tous les cas, toi et ton mari, toi et ta femme, toi et tes enfants, toi et ta belle-mère. Bon, là, je préfère ne pas aborder. D'accord. Quand on a un problème dans la vie, écoutez bien, où on règle le problème, où on fixe une date pour régler le problème, où on élimine le problème. Ça va? Bon, toi et moi, on a eu un problème. On était chez ta mère, j'ai vu que tu as dit un truc bizarre, je me suis senti mal. Donc, soit je vais te voir dans le couloir, je dis, écoute, on a un truc que ça nous concerne à nous, je veux pas que ça fasse le tour de la famille. C'est toi et moi, on doit parler. On règle le problème. Ou alors, je vais te voir, je dis, écoute, maintenant je peux parler devant tout le monde, mais tout à l'heure, s'il te plaît, on rentre à la maison, ça se fait, on parle. Parce que ça, c'est une chose importante. Donc, on a fixé une date. Donc, d'ici là, on va pas prendre la tête, ni la haine, ni la rancune, ni la méchanceté, ni les mots méchants, parce qu'on sait qu'on a une date pour régler le problème. Ou alors, j'ai vu la chose qui est malaise, mais je sais que c'était un malentendu, je sais qu'elle a pas fait exprès, et dans ma tête, je l'enlève de mon cœur, je le déracine, je lui fais un curetage, il y en a plus. Je l'élimine le problème. Encore une fois, trois solutions. Soit je règle le problème, soit je fixe un moment pour régler le problème, soit j'élimine le problème. Avec l'enfant, c'est pareil. J'ai vu qu'il y a un problème maintenant. Maintenant, j'ai trois problèmes en même temps, je ne peux pas régler les trois en même temps. C'est pas grave, j'ai dit à l'enfant, écoute, parce que tu as mis le doigt dans l'œil de ta sœur, va faire tes devoirs, mais tout à l'heure, on va parler. C'est important. Donc, lui, dans sa tête, maintenant, il a dit, ça le travaille. Déjà, il est en train de mûrir, le tagine, il est en train de revenir, là, ouais, il cuit. Et moi, maintenant, je peux m'occuper d'autre chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas cassé un pour gérer l'autre. Parce que Icar Avoda Tayetserara, les Balbel et Tadeot, une des principales objectifs du Yetserara, c'est d'embrouiller l'esprit. Et comment il embrouille l'esprit? Parce qu'il m'envoie trois trucs en même temps et moi je fais les bêtises. Au contraire. Je dois garder mon recul et je dois aborder la chose avec la tranquillité. Ah, comment on va faire? Alors, toute chose. Ravolbeu, il dit, il faudrait éduquer ses enfants comme si c'était les enfants du voisin. Bien qu'objectivement, des fois, ça peut être le cas, mais on va parler des cas généraux, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les enfants du voisin, tu as toujours la patience. Le petit Nicolas en face, il a joué au ballon, il t'a cassé une vitre. Tu vas le voir, tu lui dis, Nicolas, tu dois respecter la propriété de l'autre. Bien sûr que tu as le droit de jouer, mais avant de taper dans le ballon, tu dois regarder vers où tu vas orienter ta balle, car il est possible que tu casses une vitre. Merci Nicolas. Chikapara, c'est pas grave. Si ton fils il a cassé la vitre, comment il va être cassé? Comment tu vas l'insulter? Comment tu vas le clouer? Tu vas le crucifier? Pourquoi? Comment ça se fait qu'avec ton fils, tu n'as aucune patience, avec le fils du voisin, tu as la patience? Alors il dit, Ravolbeu, il faudrait éduquer ses enfants comme si c'était les enfants du voisin. C'est-à-dire que tu dois garder ton calme, à la limite, ça n'a rien à voir. Parce qu'au fond, pourquoi je suis calme avec l'enfant du voisin? Ben, parce qu'il est brel, qu'est-ce que ça peut me faire? Donc en vérité, c'est ton ambition qui génère ton émotion, qui génère ton instabilité. Parce que tu as de l'ambition, donc tu es déçu. Comme tu es déçu, tu es ému. Et comme tu es ému, tu l'envoies balader ou tu le fracasses. Tu dois faire le contraire. Tu dois dire, moi, c'est vrai que je suis le papa, je suis la maman. Mais d'un autre côté, je suis aussi le détenteur du Neshama que le bon Dieu m'a confié. Donc le bon Dieu vient chez moi, il me dit, tiens, je te donne ce vase qui coûte 137 000 euros, fais attention. Alors moi, il m'énerve le vase. Je ne vais pas le casser, hein. je suis responsable. C'est Neshama. Je vais arriver là-haut, on va me demander des questions. On va me demander qu'est-ce qu'il a fait avec l'enfant, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce que... Ouais. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit Rouven à Yaakov Avinu. Il a dit, on va me demander, ouais, où est-ce qu'il est l'enfant? Où est-ce qu'il est Yosef? Qui est responsable? Donc cette logique-là, elle veut dire qu'une personne, elle-même, elle prend un recul par rapport à ça. Et c'est pas une froideur, au contraire. C'est-à-dire que moi, je vais être certain, entre guillemets, d'avoir une approche objective de l'enfant, de lui donner vraiment ce qu'il doit recevoir. Ouais. Et pour ça, il faut avoir ce recul-là. Mais si je vis tout au premier degré, ça veut dire que j'ai aucun recul, je suis dans les nerfs, je suis dans le stress, je suis dans la déception, je suis dans la peur. Alors qu'est-ce que je fais? Je le casse, je le fracasse. Ouais. Alors que si j'ai du recul, des fois je vais réfléchir, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas la bonne manière, peut-être que je vais réfléchir un peu, en fin de compte, c'est un malentendu. Ah, papa, j'allais le casser alors qu'en fait c'était un problème. Combien de fois ça t'arrive que tu fracasses alors que c'est pas lui qui a fait la bêtise? Si c'est pas grave, tu prends pour les autres fois. Mais lui, il vit avec l'injustice. Il dit que mon père il comprend rien, ma mère elle comprend rien. Ouais. Et cette logique là, ça veut dire qu'en vérité, avec le recul que tu as pris, parce que toi tu dis, moi je suis devant Hachem, je ne suis pas devant mon fils. Je suis devant Hachem en train de m'occuper de mon fils. D'accord? Donc ça veut dire que tu vas démystifier la crise. Tu vas lui enlever son caractère déstabilisant. Tu ne vas pas réagir avec les nerfs. Ouais. Et surtout, tu vas essayer plusieurs approches parce que tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui est nécessaire pour l'enfant. Et ça, tu ne peux pas le faire si c'est dans les nerfs. Parce qu'il n'a pas le recul. Tu vois des gens, par exemple, dans le travail, ils sont très calmes. Oui, il y a la panique, le client, le truc. Monsieur, écoutez, asseyez-vous, on va s'occuper de vous. Il n'y a pas de problème. On téléphone au stock, on téléphone à la livraison, on téléphone au truc. Voilà, monsieur, les choses sont réglées. Tu rentres à la maison. Je comprends pas, mais prends ton efficacité professionnelle et mets-la au niveau familial. Ah, mais ça n'a rien à voir. J'ai vu ça. Même un mari, il n'y a pas très longtemps, il me dit, mais écoute, rien, ma femme, elle travaille dans une banque. Je te dis, elle est responsable d'au moins 120 personnes. Il faut voir dans la banque. Tac, 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 tac. Elle rentre à la maison, ou allô. Elle panique avec le petit, elle s'énerve, elle crie, et j'ai ses affaires. Elle se noie dans un verre d'eau parce qu'il y a une lessive en retard et deux verres d'eau à laver. Ah, je comprends, mais tu gères 75 millions d'euros là-bas. 120 personnes qui travaillent, chacun un poste différent, tu gères tout. À la maison, tu paniques. Bizarre, non? C'est très simple, c'est à cause de ça. Parce que tu n'as pas utilisé ton efficacité professionnelle au service de ton émotionnel. Comme des gens, ils arrivent à gérer 500 employés, ils n'arrivent pas à gérer 3 enfants. Ils m'ont rendu fou, le dimanche après-midi, l'autre il veut ça. Et comment tu fais avec les clients? Et celui-là, il veut ça, il veut cette taille, il veut cette couleur, il veut ça. Oui, monsieur, il n'y a pas de problème, bien sûr, on s'occupe de vous, ne bougez pas. Ah, si tu te rappelles, va chercher la chemise de celui-là, va chercher. Et comment tu fais tout ça? Et avec 3 gosses, tu deviens cinglé. Je vais dire pourquoi. Parce que tu ne veux pas, en fin de compte, accepter. Là, tu dis, mais je suis payé, là, je suis responsable. Quoi, là, t'es moins responsable, t'es moins payé. T'es pas plus payé quand tu arrives à 40 ans, 45 ans, et tu vois ton fils qui est mature et qui n'est pas mieux payé. Que le client, il est content parce qu'il dit, ah, la chemise, elle me va très. Oh, ça, t'es fier, tu dis, oh, je vais lui donner la bonne chemise. Et tu vois que ton fils, il est bref, tu dis, celui-là, on a dû mettre la chemise à l'envers quand il a accouché. Alors à quoi ça sert? Donc c'est marqué ici. Qu'en vérité, cette logique c'est quoi? C'est parce que nous, on ne maîtrise pas cette émotion. Et cette émotion, elle vient du fait qu'on est pressé que l'enfant y grandisse. Et ça c'est une erreur. C'est comme les gens, quand ils arrivent à un feu rouge, ils ont tellement peur qu'ils accélèrent. Au lieu de freiner, ils accélèrent. Parce qu'ils veulent se débarrasser du problème. Le problème, il est nécessaire. La période, elle est nécessaire. L'enfant, il doit passer par cette période, et ensuite par cette période, et ensuite par cette période. Maintenant, toutes ces périodes, elles sont nécessaires. Comme les gens, quand ils font la recette du gâteau, vous d'abord, vous battez les blancs en neige. Après, vous devez mélanger le sucre de l'autre côté. Après, vous les mettez ensemble. Après, vous laissez reposer. Après, vous mettez... Bah, qu'est-ce que c'est que moi, je mets tout dedans, je mets au four. Voilà ce que du gâteau, tu dis, bon. Vous avez suivi la recette? C'est des étapes. C'est des étapes, ouais. Tu ne vas pas mettre la crème sur le gâteau tant que la pâte n'est pas cuite. Tu fais cuire la pâte, et quand elle est cuite, tu la sors et tu mets la crème. Toi, tu dis, non, moi, je mets la crème et la pâte, et moi, je mets tout au four. C'est bizarre, elle est drôle de tête. D'œuvre d'art, ouais. Ben, l'enfant, c'est pareil. Il a besoin de ça. C'est une étape. C'est bien. Et quand il a fini cette étape, il passe à une autre étape. Et cette logique-là, et ça, c'est très important, elle ne peut fonctionner que si, malgré qu'il se mange les ongles, et malgré qu'il a fait pipi au lit, et malgré qu'il a menti, c'est toujours ton fils. Jamais tu oublies. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un curseur. Plus l'enfant il les déçoit, plus il perd la paternité. Jusqu'à la fin, s'il n'a pas choisi la personne que tu voulais, alors là, c'est plus mon fils. Il n'a pas fait le métier que je voulais, alors là, il crève. Je le déshérite. Mais non, c'est ton fils. C'est ton fils qui fait du théorie. C'est ton fils qui réussit en classe. C'est ton fils qui a volé. C'est ton fils qui t'a répondu. C'est ton fils qui a fait Shabbat. C'est ton fils qui n'a pas fait Shabbat. C'est ton fils. Heureusement pour nous que le bon Dieu, il ne fait pas un curseur avec nous. Sinon, on crève ta délire pour nous. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas le curseur. Vous êtes mon peuple. Ouais. C'est marqué dans le talent des Béliaou. Vous faites du bien, vous faites du mal. Ouais. Et Hachem, il nous aime quand même. Ah, comment il réussit à nous aimer quand on fait des bêtises? Je vous ai déjà expliqué un million de fois que les gens disent où est Dieu, où était Dieu? Dieu ne s'éloigne jamais de nous. C'est nous qui nous éloignons de lui. Lui, il ne s'éloigne pas de nous. Nous, on s'éloigne de lui. Ouais. Mais lui, il ne peut pas, parce que s'il s'éloigne de nous, on est déjà mort. Donc si on est vivant, c'est qu'il est en nous. Maintenant, nous, on fait une séparation entre nous et lui, parce qu'on ne veut pas assumer le fait qu'il soit présent. Ça, c'est exactement pareil. Quand l'enfant, il vit mal avec le parent, c'est parce que le parent lui-même, il vit mal avec l'enfant. Donc quand il va fuir le parent plus tard, c'est parce qu'au fond, il sentait qu'au fond, il n'était pas bien accueilli chez l'enfant. Maintenant, il n'a pas compris quand il était petit, mais il a ressenti. Maintenant, il comprend ce qu'il a ressenti à l'époque. Allez, va chez les psys, va chez les psys. Si c'est ça, ça veut dire que la règle, c'est que la personne, elle va prendre les choses en main. Ouais. Pourquoi? Encore une fois, ses parents, c'est sa parent. Ouais. C'est sa parent. Ses parents, c'est maturité, c'est affirmation, c'est rassurant. Ça veut dire qu'en vérité, quand moi, je prends la décision, je rassure l'enfant. Ouais. Quand moi, je m'engage, je rassure l'enfant. Et cette force d'affirmation, en vérité, elle me donne la force. Ouais, un peu comme les médecins. Les médecins, ils sont obligés d'être sûrs d'eux. Des fois, tu dis, moi, ils sont un petit peu orgueilleux. Vous savez, quand vous dites à un médecin, pourquoi vous ne faites pas comme ça et comme ça? Pourquoi il dit, écoutez, monsieur, c'est moi le médecin. Pourquoi? Parce qu'il est obligé d'être sûr de lui. Il a la vie et la mort. S'il n'est pas sûr de lui, il va tuer quelqu'un. Maintenant, il y a les défauts d'être sûr de soi. Ça s'appelle l'orgueil. D'un autre côté, c'est dangereux de ne pas être sûr de soi. Parce que t'es médecin. Tu as une décision à prendre. C'est la force du diagnostic. Le soldat, le général, il est obligé d'être sûr de lui. Ah, peut-être il se la joue, peut-être en vérité il n'est pas sûr, mais le juge est sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parent, quand il prend sur lui le joug, ouais, il prend sur lui l'obligation, en vérité, il développe artificiellement sa maturité. Après, le fait d'avoir pris sur lui la responsabilité, c'est ça qui va lui donner la maturité. C'est possible qu'au départ, il n'a pas la maturité. Ouais. Mais le fait de prendre sur soi, parce que c'est mon enfant, parce que je dois m'occuper, parce que je dois lui donner à manger, je dois payer le loyer, je dois lui donner le cash, peut-être je n'ai pas les compétences, ouais, mais les compétences, elles vont venir avec la responsabilité. Donc cette logique-là, ça veut dire que l'enfant, il a besoin de voir chez moi cette force d'affirmation, et moi, j'ai besoin de voir chez moi cette force d'affirmation. Maintenant, la seule exception, c'est quoi? C'est que c'est possible des fois que dans un excès d'affirmation, je me suis trompé. Alors, je vous dis la logique. Quelqu'un, il peut arriver à 80% qu'il a raison, à 20% qu'il a tort. C'est pas grave, de temps en temps, excuse-moi, j'ai mal jugé. Ah, j'étais sûr que t'allais pas te lever, il s'est levé. Ouais. Toi, tu t'es pas levé à la prière, mais lui, il s'est levé à la prière. Et toi, tu étais sûr qu'il n'allait pas se lever. En vérité, il s'est levé.
Ouais.
Toi, tu es sûr qu'il n'a pas révisé, mais il a révisé. Toi, tu es sûr qu'il n'a pas fait la prière, mais il a fait la prière. Parce que toi, tu mets 10 minutes pour faire la prière, lui, il met 1 minute, 1 minute. Oui, toi, t'as pas commencé à t'en débiler à où, et lui, il a fini à l'inouli chabéa. Donc, t'as une tentation de lui dire qu'il l'a pas fait. Maintenant, on va rentrer dans un problème, parce que s'il l'a pas fait, alors, il va peut-être être obligé de mentir. Et s'il l'a fait, il va se vexer parce que tu penses qu'il l'a pas fait. Ça va? Alors, moi, je te donne un conseil. Il vaut mieux que tu penses qu'il l'a fait vite. Ce qui est souvent le cas, d'ailleurs. Il l'a fait vite. Alors, toi, au lieu de lui dire, pourquoi tu ne l'as pas fait à l'ennemi Shabéa, tu vas lui dire, tu sais, mon fils, pourquoi je le fais doucement? Parce que tu vois, rien que cette phrase-là, ouais, cette phrase de Alénou, regarde comment elle est belle. Et tu lui expliques une phrase. Dis ça, cette phrase-là, tu ne peux pas la sentir quand tu la dis vite. Tu es obligé de la dire doucement. Donc, tu lui dis pas, tu n'as pas lu. Tu lui dis, c'est bien de lire doucement, parce que quand tu lis doucement, tu ressens les choses. Maintenant, s'il ne l'a pas lu, il va avoir envie de le lire. Et s'il l'a lu vite, il aura envie de le lire doucement. Tu as gagné deux fois. Tu dis, ouais, mais ça, il faut du recul. Parce que t'as les nerfs, parce que tu vois qu'il a pas fait. Il ferme le livre et il dit, où tu vas? Oh, allez-nous les chaléas, et le dernier caliche. Il vaut mieux qu'il rate un caliche que tu le dégoûtes de la prière. Et si tu le cries à chaque fois qu'il vient à la prière, il dit, je suis bien à la maison, personne ne me crie. Faut que tu trouves le dosage. Ouais. Il dit, cette logique-là, ça veut dire que, comme c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Gemara Akadosh Baruch Hu, il a été surpris par l'ennemi Israël. C'est difficile à dire, mais c'est comme ça. Parce que c'est marqué que deux fois, Akadosh Baruch Hu, il rit. Il rit quand il voit l'erreur de la personne qui n'est pas adaptée, et il rit quand il est surpris par une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Dans la Gemara, elle raconte que l'ennemi Israël, entre guillemets, ils ont piégé Hachem. Ouais. Alors, comme ils l'ont piégé, grâce à la Torah, ils l'ont piégé, alors il a ri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fois, on peut être surpris de l'intelligence de l'enfant. On peut être surpris de ce qu'il est capable de faire. Maintenant, pour se donner la chance d'avoir des surprises, il faut lui laisser une part. Donc d'un côté, je dois le rassurer. D'un autre côté, il faut laisser une part pour que l'enfant il puisse me surprendre. Maintenant, quand lui, il me surprend, la plus grande kiff qu'il a fait de sa vie, c'est qu'il a réussi à surprendre son père sur le bien qu'il a développé. Et cette logique, ça veut dire toujours, ça restera entre l'obéissance et la dépendance. C'est-à-dire que toi, tu dois créer une autorité qui va donner à l'enfant cette capacité d'obéir, mais cette capacité d'obéir, elle doit être dans un projet de le rendre indépendant. Mais si l'obéissance, elle en a fait un esclave, elle en a fait un robot, ça a perdu. C'est pour ça que quand il est petit, il y a beaucoup plus de directives, et plus il grandit, moins il y a des directives. Pourquoi ? Parce que tu passes le relais maintenant. Mais si tu continues à avoir la même autorité quand il a 15 ans que quand il a 6 ans, qu'est-ce que tu penses qu'il a 6 ans? C'est pour ça qu'à 18 ans, tu lui dis « Mais comment tu oses me dire non ?» Mais il a 18 ans. À 8 ans, tu imposes. À 18 ans, tu négocies. Tu discutes. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est quoi ton point de vue? Et tu veux qu'on réfléchisse sur le sujet, mais si tu dis c'est comme ça, c'est qu'en fait tu n'as pas compris qu'il a 18 ans. Donc lui il le vit mal parce que tu lui parles comme un enfant de 6 ans. Et toi tu le vis mal parce que toi tu voudrais qu'il réagisse comme un enfant de 6 ans. Mais il n'a pas 6 ans. Il n'a pas. Ouais. Et après si ça ne marche pas, alors je suis très déçu de toi. De toute façon je savais que tu sortirais tordu. Encore pire, maintenant tu rajoutes maintenant dans la surenchère émotionnelle. Alors qu'en vérité, c'est toi, ton problème c'est que tu n'es pas adapté. Si tu es adapté, tu l'as accompagné. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une logique, une espèce d'équilibre entre l'obéissance et la dépendance. Qui peut entraîner que l'enfant, il a l'impression que tu lui dis toujours non, que l'enfant, il va devenir un pleurnicheur. Ouais, il va pleurer, il va t'avoir à l'usure. Alors quand il est bébé, il fait une crise. Ouais, il fait une crise. On avait un enfant comme ça. Quand on lui refaisait quelque chose, il se met à crier. Il s'est manifesté. Alors, on l'avait emmené chez un docteur, on a eu peur, on croyait que c'était un truc de maladie. Il a dit non, c'est un truc de caractère. Il a dit dès qu'il commence à faire ça, vous criez. Il a dit non, je t'interdis. Pour qu'il revienne. Sinon, il part dans son truc. Ouais, comme les gens qui ont peur, ils font ah, c'est paf. Oh, là c'est avec nous. Ouais, ça n'arrive pas. Votre pas. Parce qu'il voit que ça marche. L'eau, quand elle descend de la montagne, c'est rare qu'elle s'arrête pour dire tiens, au fait, où vais-je aller? Ça coule. Donc toi, maintenant, tu dois trouver ce chicou. Parce que d'un côté, tu veux créer un espace d'épanouissement de l'enfant, mais d'un autre côté, tu vas lui donner des structures pour qu'il arrive à orienter. Maintenant, le plus important, c'est que quand il n'a plus, il a plus besoin de la présence de ses parents physiques, parce qu'il a développé entre-temps les parents psychologiques. Maintenant, si à 40 ans, il a besoin des parents physiques, c'est un handicapé. Si à 8 ans, il n'a plus confiance dans ses parents physiques, toute sa vie, il va chercher des parents psychologiques. C'est logique, non? C'est une logique d'apprentissage. Vous vous rappelez la balle de fusil dans le canon, non? Oui, non? Personne ne révise. Pourquoi les snipers ont un fusil très long? Les snipers. Ouais. Les tireurs d'élite. Vous vous rappelez pas? Bon, je vais résumer en 2 minutes. Si vous voulez faire un hold-up, par exemple, vous allez acheter un fusil, vous allez couper le manche, vous allez couper le canon. Ça s'appelle un fusil à canon scié. Il est petit comme ça, vous pouvez le mettre dans le pantalon, vous rentrez dans la banque, vous menacez, vous tirez. Maintenant, le problème, c'est que, étant donné que le canon est très court, donc il a une précision de 2 mètres maximum. Par contre, le sniper, le tireur d'élite, il peut tirer une balle entre les deux yeux d'une personne, record, c'est à 1 km 600. C'est à 1 km 600, tu ne vois même pas le type. Et lui, il tire, et la balle est de lui, paf. Comment c'est possible? Alors, je vous donne le secret. Une cartouche, oui. Comment c'est? C'est un récipient qui contient de la poudre. Dedans, il y a un percuteur qui va enflammer la poudre. Quand la poudre, elle explose, elle développe un gaz. Et ce gaz, il fait une pression qui va envoyer le projectile. Ça va? Super. Maintenant, si moi je prends une cartouche comme ça en l'air, je la tiens comme ça, et avec un petit marteau, je tape en dessous. Je vais faire exploser la charge. Où elle va aller la balle? Impossible de savoir. Ça s'appelle une trajectoire aléatoire. Ouais. Mais si je prends la balle, je la mets dans le canon. Maintenant, quand je tire, j'explose la charge. La balle, elle part. La balle, elle part pas droit en réalité. C'est faux. La balle, elle part. Elle tape à droite, elle tape à gauche, jusqu'à ce qu'elle a stabilisé la trajectoire. Plus je veux être précis loin, plus le canon, il est long. Si j'ai un canon très court, ouais, donc l'enfant qui va quitter très tôt l'école, l'enfant qui va arrêter de réfléchir très jeune, l'enfant qui n'a pas l'autorité du père et de la mère, parce que les parois du canon, c'est mon père, ma mère, mon rave, mon frère, mon prof de gym, mon grand frère, toutes les personnes qui vont m'aider à stabiliser ma trajectoire. Très très dur, très très dur de faire un tir précis, alors que c'est la poudre qui explose. Donc les gens qui disent, vous savez, j'ai explosé, j'ai fait ma crise, et après j'ai fait n'importe quoi, je ne sais pas ce que je voulais. En vérité, tu n'as pas eu le temps de stabiliser la trajectoire. Le chinour, l'éducation, c'est ça. C'est la longueur du canon. Quelqu'un, on va lui demander de gérer un état, il va faire des cours plus longs que quelqu'un qu'on lui demande de gérer une étagère. C'est pas le même espace et c'est pas la même structure. Donc maintenant, plus il va faire des études longues, ouais, maintenant, combien de temps durent les études d'un juif? Toute sa vie. Ve'agitabo yomam valayla. Tu vas étudier la Torah jour et nuit, ouais, jusqu'au jour de ta mort. Pourquoi? Parce que la vie, en vérité, les gens ils croient que la vie elle commence à 30 ans. Il y en a qui pensent que la vie elle s'arrête à 30 ans. Donc eux, ils arrêtent de réfléchir au moment où ils commencent à travailler. Alors qu'en vérité, la vie elle s'arrête à la seconde où tu meurs. Donc tu auras des questions à 20 ans, tu auras des questions à 30 ans, tu auras des questions à 50 ans, tu auras des questions à 80 ans. Il va falloir trouver des réponses. Où elles sont les réponses? Elles sont en toi. Mais alors comment tu les révèles en étudiant? Même quelqu'un qui est médecin depuis 50 ans, quand il a le cas devant lui, il refait le calcul. Il dit, bah bon, écoute, c'est tout pareil, allez hop, c'est l'hiver, tu tousses, c'est la grippe. Non, non, non. Il réfléchit, il écoute le cœur, il écoute la respiration, il dit, oh là là, bronchite chronique, souffle au cœur, il a sauvé la vie. Moi, je connais des gens, c'était des. C'était un opticien. C'est même pas un ophtalmo. Ouais. Maintenant, il a tellement pris à cœur son métier, il m'a dit combien de fois des gens ils viennent avec, la, avec l'ordonnance du médecin, l'ordonnance de l'ophtalmo, et lui il voit ça, il regarde avec l'œil nu, hein. Il dit il faut aller tout de suite à l'hôpital. Il y a une déchirure, il y a un truc. Et le mec il lui a sauvé l'œil. Pourtant, c'est pas un médecin. Mais un opticien, il a mis son cœur, il va voir plus qu'un médecin qui dit oh, ça va, 40 ans, faiblesse de l'œil, déformation de la cornée, il n'a même pas regardé. Parce qu'il n'a pas remis son cœur dedans. Maintenant, toi, l'enfant, tu mets ton cœur quand il a 8 ans, tu mets ton cœur quand il a 15 ans, tu mets ton cœur quand il a 30 ans. Comme tu mets pour toi, comme tu mets pour ta femme, comme tu mets pour Hachem, comme tu mets pour tes enfants. Donc ça s'appelle quoi? C'est-à-dire que à chaque fois, tu vas recalculer la structure. Donc tu vas recalculer la trajectoire. Et ça, l'enfant, il a ça à l'intérieur de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est ça les attentions. C'est que les trucs bizarres. Parce que le mot attention en français, il veut dire, les attentions, les gentillesses. Et attention, ça veut dire faire attention. Franchement, pas les attentions, c'est quoi? Donc tu veux ou non? De la même manière. Quand toi, tu t'habitues à faire attention, c'est-à-dire, il faut que les attentions que tu as pour tes enfants, ils soient basés sur les attentions. Donc tu fais attention parce que tu as des attentions. Maintenant, si l'enfant, il sent ton attention, ouais, au-delà de tes attentions, de attention, ouais, donc il va t'aimer. Et cette logique-là, ça veut dire qu'en fin de compte, quand lui, il va obéir, ouais, tu dois lui montrer que tu es content. Quand lui, il réussit, tu dois lui dire Chazak Abaro. Quand il a gagné 2 points, tu dois lui dire bravo. Quand il s'est couché à l'heure, tu dois lui dire Chazak. Quand il ne s'est pas engueulé avec son frère, tu dis, je suis content que tu arrives à ne pas te bagarrer pendant tout un Shabbat. Tu dis pas c'est normal, c'est évident, tu es le grand, tu es... Ouais, combien de gens je rencontre, mais... Ah, vous êtes l'aîné, ah d'accord. Est-ce que vos parents vous ont fait peser le fait d'être l'aîné? Ah oui, j'en ai beaucoup souffert. Les gens, ils parlent. Ils parlent. Mais ils viennent pour le Shalom Bayit, mais ça ressort. Et cette logique-là, ça veut dire qu'en fin de compte, quand la personne, elle va apprendre à l'enfant, et ça c'est très important, à relier les causes avec les conséquences. Vous pouvez l'éteindre, ça me dérange. Donc, d'accord. Non, je ne peux pas lancer, n'insistez pas. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Il vaut mieux mettre en silence directement. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'on peut réprimander l'enfant, mais il faut expliquer. Maintenant, je vous dis la secret, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord imposer et après expliquer. D'abord, tu dois dire ce soir, tu ne sors pas. D'abord, tu ne sors pas. Et quand il baisse la tête, tu dis non, je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, tu as tort. D'abord, tu vas t'excuser. Et après, je vais t'expliquer pourquoi. Mais toi, tu dis non. Tu dis d'abord, je lui explique. Et si Dieu veut, il va accepter. Dis-lui une idée. Que là, tu parles avec son éditeur. Ouais. D'abord, il accepte l'autorité. Parce que le bon Dieu, d'abord, il t'impose. Et peut-être plus tard, il t'explique. Et peut-être, il t'expliquera jamais. Donc, si toi, tu attends qu'on t'explique, ouais, après 40 ans après la mort de ton père, tu es encore rebellé. Parce que tu attends mon explication. Genre, pourquoi? D'abord, tu acceptes. Et l'ouverture d'esprit, l'acceptation, elle fait que tu peux comprendre. Mais quand toi tu refuses, la fermeture d'esprit de la non-acceptation, elle fait que tu comprendras jamais. Donc si c'est ça, ça veut dire que quand l'enfant tu vas l'accompagner et tu vas lui montrer, tu vas optimiser, ça veut dire que maintenant, même entre guillemets une punition, elle peut devenir un outil. Même une erreur de l'enfant, elle peut devenir un enseignement d'expérience. Parce que tu peux t'asseoir avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je crois que c'est normal, voilà, il t'a menti, alors qu'est-ce que tu as gagné? Pourquoi tu l'as fait? Réfléchis, maintenant on est tous les deux. Ouais, tu peux faire ça, on fait un jeu entre le père et la mère. Je vous ai expliqué déjà. Ouais, le père il a crié, alors l'enfant il est mal, il va dans la chambre. La maman elle vient, elle dit mon fils, tu crois que papa ici pour rien? Alors il ouvre son cœur. Après qu'il a ouvert son cœur, il va chez papa. Papa il l'embrasse, il dit mais c'est bien mon fils, je suis content que tu as compris. Et après il est encore lui réexplique. Pourquoi? Parce que nous, on croit, et ça c'est une très grave erreur, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais comme l'éducation c'est la répétition, c'est pas grave si je vous répète un peu, c'est que nous, on croit que ce qui est évident pour nous, c'est évident pour les enfants. C'est une erreur. Hein. Pour devenir évident chez nous, ça a pris 20 ou 30 ans. Pourquoi veux-tu que lui, à 8 ans, ça soit évident? Et si tu es nerveux, c'est parce que tu crois que c'est évident. Alors qu'en vérité, c'est le contraire. Ouais. Tu lui expliques, tu dis, tu mets le manteau, car il fait froid dehors. Tu mets le manteau parce qu'il fait froid.
Ouais, il y a une différence, le corps, à l'intérieur et dehors, une différence de température, ça crée le froid. Tu es froid, bah, tu attrapes froid, maintenant tu vas tousser, alors tu vas être mal, tu pourras pas aller à l'école, tu pourras pas aller jouer avec tes copains. Tu te coupes, tu expliques. Toi, tu crois que ça ne sert à rien, ça sert. Si tu dis c'est comme ça, ouais, l'enfant il comprendra jamais et il le prend mal. Tu lui dis, tu écoutes en classe, alors tu comprends le cours. Comme tu comprends le cours, tu sais faire les exercices. Comme tu fais les exercices, tu peux réviser l'interro, tu réussis l'interro. Maintenant, tu n'écoutes pas le cours. Maintenant, tu ne comprends rien aux exercices. Maintenant, après, à l'interro, tu te plantes. Alors, comme tu te plantes, tu t'ennuies. Comme tu t'ennuies, tu fais des bêtises. Comme tu fais des bêtises, il te sort de la classe. Après, toi, tu fais le clown. Maintenant, tu te sens mal dans la classe. Après, tu dis, tu redoubles. Alors, tout ça, pourquoi? Donc, il voit les conséquences. Ça veut dire que très, très tôt, il faut donner à l'enfant des notions de géométrie. Un point, c'est un point en géométrie. Ouais. Deux points, c'est un segment de droite. À partir de trois points, c'est une courbe. Donc tu dois apprendre à l'enfant à dire, regarde où elle va ta vie. Regarde où elle va. Ouais. À l'époque, tu m'as dit, tu as levé le ton. Tu étais timide. Après, tu as dit, maintenant j'ai le droit de parler. Après, tu as levé le ton. Maintenant, tu dis un gros mot. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas mettre une baffe. C'est tu lui montres qu'il prend une courbe. Celui qui n'a pas la capacité de voir la courbe, c'est-à-dire qu'il n'a pas la structure, donc ça veut dire qu'il n'a pas, il n'est pas roué tanolade. Alors il va avoir des problèmes. Le contraire, il apprend ça. Maintenant, quand toi tu lui expliques la chose, ouais, tu lui dis, maintenant c'est l'heure d'aller dormir. Ouais. Alors il va dormir. Maintenant, le lendemain, il a la pêche. Alors je vois des gens qui disent, non, vous savez, mes enfants, ils dorment quand ils veulent, alors qu'ils veulent. Mais t'as pas compris. En vérité, on s'en fiche du sommeil. On veut qu'il apprend à structurer son corps selon sa raison. Son corps selon sa raison. Des fois le manger il est bon, des fois le manger il n'est pas bon. Mais c'était très dur. Et ben, les enfants ils ne mangent pas. Ils n'aiment pas. Je dis, ben, allez dormir. Mangerai demain. Mais s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Non, c'est ce qu'il y a à manger. Celui-là il veut du fromage, celui-là il veut une omelette. Celui-là il veut toujours ce qu'il n'y a pas. Celui-là il veut pas faire les courses. Non, tu dis voilà, c'est ce qu'il y a à manger. Et tu vas dire, mais c'est pas bien parce que si on peut les gâter, ces pauvres chéris. Mais tu n'as pas compris la vie, elle ne va pas leur donner toujours ce qu'ils veulent. Donc si eux, ils ont l'habitude de souffrir, de ne pas avoir ce qu'ils veulent, ils vont beaucoup souffrir. Par contre, celui qui arrive à aimer ce qu'il aime, parce qu'il dit, bon, c'est mon père, c'est ma mère qui me l'a donné, ça sera toujours bon. Donc le goût de la nourriture dépend de l'appétit pour le manger et de, et de l'amour de la personne qui te le donne. Tout le monde aime le manger de sa mère. Pourtant, il y a certaines cuisines qui sont proches de l'homicide volontaire. Mais c'est adapté à l'enfant. L'enfant, il va survivre. Mais un autre, il va mourir de brûlure d'estomac. Mais celui-là, il a les mêmes gènes que sa mère, donc il va survivre. Il y a des gens, ils ne savent pas cuisiner, mais ils ne savent pas, mais t'es écœuré. C'est très difficile. Tu dis, des fois, ils te mettent un plat, tu dis, mais... C'est avant la digestion ou après? C'est très, très, très compliqué, d'accord? Donc, c'est quoi l'idée, ouais? C'est qu'en fin de compte, le sentiment que tu as mis à l'intérieur, ouais, c'est ça ce qui va prendre. De la même manière, cette structure-là, si elle est bien vécue, si elle est bien accompagnée, si elle est bien positive, il ne faut pas avoir peur. Il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, l'enfant, il faut éviter, dans les attitudes, il faut éviter les incertitudes. C'est très dangereux. Ouais. Il ne faut pas dire à l'enfant, eh ben on verra, j'essaierai, eh ben je te dirai plus tard, laisse-moi tranquille, on verra. C'est très dangereux. Tu dois être précis, tu dois lui dire. Ouais. Tu ne sors pas aujourd'hui, tu sortiras demain. Ouais. Dimanche, tu vas faire ça. Lundi, tu vas faire ça. Je t'ai dit, à la fin du trimestre, tu reçois le vélo. Précis. Parce que les on verra et les on verra, ils créent de l'espoir. Et l'espoir, il crée des espoirs. Toi, tu vas juste oublier ce que tu lui as promis. Pourquoi? Parce que toi, tu dis que tu ne l'as pas promis. Mais lui, il en pense que tu as promis. Et lui, et toi, tu penses que tu ne l'as pas promis. Tu dois avoir la stabilité. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambivalence. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'effet bizarre. Genre, tu lui mets une tannée, mais tu rigoles. Il y a des gens comme ça, ouais. Tu rigoles. Lui, il pleure, toi, tu rigoles. Donc lui, il dit, mon père, il est fou. Ça fait des pervers, ça fait des vicieux, ça fait des serial killers. C'est-à-dire que ça leur fait plaisir de faire mal. D'où il sait que ça fait plaisir de faire mal? Parce que quand tu le frappais, tu rigolais. Non, quand tu frappes, tu dois avoir de la peine plus que lui, tu pleures avec lui. Ouais.
quand tu rigoles plus que lui parce qu'il voit que t'es content. Attendez, j'ai dit deux fois frapper, mais je frappe jamais les enfants. Hein. Parce que je sais pas, à la fin, ils vont croire que c'est un cours de la fin. Donc, ce qui est marqué ici, ça veut dire que cette perpétuité-là, d'aller au bout de ses décisions, de maintenir les règles, parce que les gens, ils changent tout le temps, ils vivent comme ça, après ils font comme ça, ou alors ils veulent faire exactement le contraire du mari, ou le contraire de la femme, déjà eux-mêmes, ils ne sont pas mis d'accord. Ouais. Donc l'enfant, il est déstabilisé. Si cette logique-là, elle veut dire qu'en vérité, non seulement que l'autorité, elle est nécessaire, mais que quand elle est faite, on a dit, dans le bon esprit, avec cette perpétuité, avec cette relation dans l'avenir, avec cette logique d'apprentissage et de répétition, avec cette logique de mise en condition, avec cette logique de réflexion, avec cette logique d'explication, les choses, elles sont très positives. Ouais, c'est exactement comme un immeuble, qu'il est entièrement en aluminium, et après, dessus, on rajoute des décorations, on met des briques, on met des trucs. Mais déjà, on a fait la structure. Il dit, tout le temps où on est en train de mettre l'autorité, en vérité, on est en train de mettre en place la structure. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand on a décidé de faire plusieurs thèmes sur l'éducation, il y avait 4 ou 5, on a choisi au hasard, on a dit, on va commencer par celui-là. Vas-y, j'ai pas réfléchi, je les ai vus comme ça. Mais c'est tombé exactement avec la paracha qu'on a vu cette semaine. C'est incroyable. C'est ça que c'est marqué, que quand quelqu'un il vit avec la paracha de la semaine, il vit exactement avec ce qu'il a vu dans la semaine. Parce qu'ici c'est marqué, Va'era el Avram Yitzhak et Yaakov bekel Shakai, Ushmi Hashem le Nozarti Lahem. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, comment est-ce que toi, tu peux te mettre en colère? Alors que moi, je me suis fait connaître Avraham, Isaac et Jacob en tant que Kel Shakai, le nom d'Hachem Shakai, Shin Dalethul, oui. Et le nom Hachem, je me suis pas fait connaître à eux. Rachid dit, l'eau odarti, l'eau kétikan. Et là, l'eau nozarti. Il n'y a pas écrit que je me suis pas fait, que je l'aurais pas, l'eau odarti, je l'aurais pas fait connaître. Mais je ne me suis pas fait connaître à eux. Moi, je ne me suis pas fait connaître à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il est apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov dans une certaine attitude qui s'appelle Shakai. C'est quoi Shakai? Chez Amar le Olamo Dai. Dai, c'est-à-dire le monde, c'est fini. Les choses, elles sont comme elles sont, c'est comme ça et c'est tout. Maintenant, il dit, Iftartim la'em veloki amti. Je leur ai promis des choses et je ne l'ai pas accompli. Par contre, le nom d'Hachem, Yud Kevake, ouais, le tétragramme, lui, il s'appelle Midat Amitit, c'est la qualité de vérité. Et Hachem, quand il réagit, il agit selon cette qualité-là, il est obligé de tenir sa promesse. Même d'accord. On a expliqué déjà plusieurs fois que le nom Yudke Vavke, ça s'écrit Yudhe Vavhe. Et en vérité, c'est la racine, c'est Ove. Ove, c'est le présent. D'accord. Maintenant, en vérité, Dieu, Yudke Vavke, il est présent. Et il est présent. C'est-à-dire que le passé, c'est un présent, le présent, c'est un présent, et le futur, c'est un présent. Maintenant, quand Dieu, il dit quelque chose au présent, puisque le futur, pour lui, c'est du présent, donc il est engagé par son futur depuis le présent. Et c'est ça, une promesse. Une promesse, c'est que ce que je t'ai dit, je vais le faire. Si mais peut-être dans 10 ans, ça sera différent. Mais je ne peux pas parce que je te l'ai dit. Donc, ça veut dire que quand Dieu, il prononce le nom de Dieu qui est puisque ce nom-là, il s'appelle le présent continu, ouais, donc il engage le futur. Maintenant, Hachem, il dit, moi, le nom Shakai, je ne l'ai pas prononcé. Je l'ai prononcé pour Avraham, Yitzhak et Yaakov, et je ne l'ai pas prononcé pour les bénis d'Israël quand ils étaient en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Hachem leur a promis qu'il allait leur donner la terre d'Israël. D'accord? Et pourtant, Avraham, quand il a enterré sa femme, il a dû acheter le caveau, le terrain. Yitzhak, quand il a voulu creuser des puits, il a fallu qu'il se bagarre. Et Yaakov, il a fallu aussi qu'il se bagarre pour pouvoir vivre en Israël. Alors, comment ça se fait? Alors, il dit une chose incroyable. Tu vois que les Avos, ils ne se sont pas révoltés pour autant. Ils ont accepté. Pourquoi? Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils savaient très bien que le projet d'Hachem, il est à long terme. Maintenant, quand est-ce qu'il va se passer le résultat? Ce n'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est que toi, ta part à toi, tu l'as fait comme il fallait. Ça va? C'est que les Avos, on leur a promis le futur, mais eux, ils vivaient le présent. On leur a promis le futur, mais ils vivaient le présent. Mais les bénis Israël, ils sont en Égypte. On a dit que l'Égypte, c'est quoi? C'est les limites. Donc, ils sont comme des enfants. Les enfants, ils ne voient pas à long terme. Les avos, ils voient à long terme. Les enfants, ils voient à court terme. Un enfant, tu peux lui dire, voilà, si tu tiens tout jusqu'à la fin de la semaine, tu ne fais pas le balagan, je te donne 5 euros. Maintenant, si tu travailles tout le trimestre, je te donne un vélo. Il a besoin de voir le résultat. Le vélo, il l'a acheté déjà, il est posé là. Il le voit. Chaque fois qu'il a envie de faire le balagan, il pense à son vélo. Donc, il a besoin de court terme. Alors, comment s'appelle le court terme? Ça s'appelle lui qui est vacré. C'est Midat Amitit.
ouais, que tu vois le résultat. Donc les bénis Israël, pour sortir d'Égypte, ils avaient besoin de voir les plaies. Parce que Dieu, il aurait pu massacrer les Égyptiens en une seconde. Pourquoi pendant un an, il a fait les plaies? C'est pas pour punir les Égyptiens, c'est pour éduquer les bénis Israël. C'est-à-dire, plaie après plaie, il a augmenté la émouna des bénis Israël. Et même quand il a fait ça, il a fallu qu'il détruise les idoles, pour qu'ils arrêtent d'être idolâtres. Et même quand il a fait ça, il a fallu qu'il ouvre la mer Rouge, pour qu'il voit que Dieu maîtrise la nature. Et même après ça, il a fallu que les cadavres égyptiens soient rejetés par la mer, pour qu'à ce moment-là, Vayaminu, seulement à ce moment-là, quand ils ont vu que les Égyptiens étaient morts, à ce moment-là, ils ont eu confiance. Alors toujours, je disais, mais c'est bizarre avec tous les miracles qu'ils ont eus. Vous savez, dans les camps de la mort, les nazis, ils avaient un jeu extraordinaire. C'est que la force du peuple d'Israël, c'est l'espoir. Et la faiblesse, c'est l'espoir. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils donnaient toujours de l'espoir. L'espoir que tu vas être libéré. L'espoir que l'autre qui va mourir et toi, tu vas survivre. L'espoir que la moitié du camp, elle va être sélectionnée, l'autre, elle ne va pas être sélectionnée. L'espoir que les gens qui ont une carte de travail, ils ne vont pas mourir. En fin de compte, les nazis, ils ont tenu les juifs par l'espoir. Comme les Tirara, il te tient par l'espoir. Il te fait croire qu'avec ta maîtresse, tu seras plus doué qu'avec ta femme. Espoir. Ouais. Il te fait croire qu'en volant, tu gagneras plus d'argent qu'en travaillant honnêtement. Espoir. Il te fait croire qu'en mentant, tu auras plus la confiance qu'en disant la vérité. Espoir. C'est l'espoir qui te tue. Maintenant, sans espoir, on ne peut rien faire. Maintenant, le Yitzhara, c'est Pharaon. Ouais, Pharaon. Donc, il a développé l'espoir. Il a dit, maintenant, même qu'à la fin de la guerre, même quand les Américains sont rentrés dans les camps, ils ont cru que c'était des nazis qui s'étaient habillés en Américains pour qu'ils les font sortir après qu'ils les tuent. Ils ne croyaient pas. Il a fallu qu'ils voient le commandant du camp pendu. Ils ont dit, maintenant, ça y est, on peut croire. Comme là-bas. Tant qu'ils n'ont pas vu les cadavres des Égyptiens rejetés par la mer. Parce que c'est un miracle. Normalement, les gens, quand ils se noient, ils restent dans l'eau. Là, Hachem, il a fait un miracle que les cadavres ont été rejetés pour qu'ils acceptent de croire. Ça va? C'est-à-dire que tellement les bénis Israël, ils étaient loin de l'anima, qu'il fallait leur faire des miracles pour qu'ils acceptent de partir en Égypte. Ça va? Maintenant, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les Avot et les bénis Israël. Maintenant, Hachem, Shakai, c'est quoi? C'est celui qui voit Shakai. C'est-à-dire qu'Hachem, il a une attitude avec lui de Shakai. C'est qu'il voit à long terme. D'accord? Et ça, c'est la structure. Maintenant, le court terme, c'est quoi? C'est Yudke Vavke. Maintenant, quand les bénis Israël, ils avaient besoin de passer par là pour atteindre ce niveau-là. Ouais? C'est pour ça qu'il a fallu qu'ils sortent d'Égypte, qu'ils quittent l'enfance. Après qu'ils aient 40 ans dans le désert d'apprentissage à la Emouna, ouais? Et après qu'ils peuvent rentrer en Eretz Israël. Comme quelqu'un, il va travailler, mais il va faire un an d'Yeshiva, c'est bien. C'est bien. Après, tu vas travailler. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer la croyance. Il va rentrer comment Dieu, il fait vivre quelqu'un par miracle. Il va rentrer. Après, il va aller travailler, c'est pas grave. Parce que son travail, il aura toujours le goût de la Torah. Mais si quelqu'un, il travaille, il espère un peu, il met un peu de goût de Torah. Dans sa tête, il y a toujours la Torah et le travail. Il ne mélange pas. Parce qu'au fond, le goût, il l'a pas. Donc, c'est quoi la logique? C'est qu'en fait, les bénis Israël, maintenant, on l'a compris, ils ressemblent aux bénis Israël, ils ressemblent aux enfants. Ouais. Et les avots, ils ressemblent aux adultes, ça va? Maintenant, il y a une autre lecture encore, et je vais finir avec ça. C'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons les avots et les bénis Israël. Moi, j'ai des gens, ils ont des problèmes. Ils disent, voilà, je suis en dépression, je ne suis pas bien, il faut que je m'en sorte, est-ce que vous pouvez m'aider? Je dis, écoutez, moi, je ne connais pas la personne qui ne va pas bien. Moi, je vois la personne qui va bien, parce que vous êtes qui vient chez moi. Ah, maintenant, c'est la personne qui dit, voilà, tu vas faire comme ça. Elle dit, ouais, mais c'est pas facile, ça marchera pas. Non, ça c'est l'autre qui veut pas s'en sortir, mais celui qui veut s'en sortir. Donc en fait, tu dis aux avots qui sont en toi de s'occuper des bénis Israël qui sont en toi. Tu veux ou non? Les avots qui sont en toi, ils savent que chez Amar les Olamodai, et ils vont suivre le Shem Shakai. Mais l'autre, il a besoin du Tkevavke. Donc qu'est-ce que tu vas faire, toi? Toi, celui qui est fort en toi, qui a envie de s'en sortir, il va dire, mais regarde quand même, tu obtiens des résultats. Voilà, tu as réussi à te lever. Voilà, tu as réussi à aller au travail. Voilà, tu as réussi à dire la vérité. Voilà, tu as réussi à ne pas t'angoisser. Donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Yudke Vavke, tu vois les résultats. Donc, Shakai, c'est quoi en fait? C'est la structure. Et Yudke Vavke, c'est le fluide. C'est pour ça que c'est lui qui met Ave et Olam. C'est lui qui fait être le monde. Maintenant, à l'intérieur de nous-mêmes, ouais, on a Yudke Vavke, on a Shakai. Et devant nous, dans les attitudes de la vie, de la attitude d'Hachem, c'est-à-dire la Jaffa, on a Yudke Vavke et on a Shakai. Maintenant, Shakai, c'est celui qui a figé les choses, mais en même temps, c'est celui qui est menatser à la mazalot. C'est lui qui détermine la destinée de quelqu'un. D'accord? Oui? Maintenant, quelqu'un, maintenant, la destinée au niveau du parallèle dans le mental, c'est quoi? C'est mon inné, c'est mes caractéristiques physiques et psychiques. C'est-à-dire que c'est très dur d'échapper à ce que ma personne est au fond. Mais Yudke Vavke, c'est la personne en moi qui n'est pas limitée par mon éducation et par mes contraintes et par mes complexes. Et moi, je peux aller au-delà. Et je peux être plus grand que ça. Donc si moi, je décide de suivre mon mental et de suivre mon éducation à 100%, c'est-à-dire combien j'ai été contre mon conditionnement, s'appelle que je suis Shakai. Si moi, je dépasse mon conditionnement, alors moi, je suis dans Yudke Vavke. Maintenant, Hachem, il a dit... Avram Avinu, ve ani, moi, Yudke Vavke, ani, kel Shakai, je suis Shakai, ve etna et veriti, beni ou benecha, et je mettrai mon alliance entre toi et moi. Donc, si moi, je veux avoir une alliance avec Yudke Vavke, c'est-à-dire si moi, je veux être lié en moi à la partie de moi qui vient de Yudke Vavke et qui, elle, est prête à bouleverser les limites, alors je ne dois pas avoir peur. Mais pour pouvoir profiter de cette créativité, de cette remise en cause, il faut que j'accepte d'abord en moi le Shakai. Et le Shakai, il vient de l'éducation, de l'autorité. Donc quand les parents m'ont donné l'autorité, ils m'ont donné Shin Dalet Yud, donc ils m'ont rendu les Avot. Et en même temps, avec l'amour qu'ils m'ont donné, ils m'ont donné Yudke Vavke. Maintenant, Yudke Vavke, c'est lui qui va utiliser le Shakai, ouais, pour redistribuer le Mazal. Et d'un côté, le Shakai, c'est lui qui va donner la structure de la réalité. Vous avez vu comment les choses se... Voilà. Et étant donné qu'on a dépassé d'une minute... Donc, Azakoumaro, merci beaucoup. On va dédier le cours. On va dédier le cours pour les Yunishmat de Yehuda ben Nissan ve Mina. Je vous promets un échama parmi les Sadikim Israël. Et on va rajouter aussi Abraham Shimon ben Simcha. Est-ce que vous avez d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes décédées? Doris Bat Eliza. Shema. Amen. Pour les gens décédés.
Oui,
Odette. Dana. Seton. Hachem Elef Sani Shama parmi celles qui m'étreignent. Et on va demander à Mavdi Ben Chaim Elef Simla, la réprochaine de tous les malades, en particulier de Simcha Bat Selecha.
Amen.
Solim Ben Badia.
Amen.
Amen.